il a cassé la démarche comme Samuel Umtiti, un influenceur
qui est champion du monde par équipe de trail. Clem, j'attends ta réponse.
Il a pas son diplôme. On peut en parler un autre moment là, tu m'humilies en direct.
Enfin, faire tout ça, c'est continuer à le faire vivre en fait.
Révélé au grand public dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Après, on ne connaît pas, on était trop jeunes.
Tu l'as vu celle-là ? Elle est magnifique.
Et un énorme paf.
Mais vous êtes lourd.
Salut à tous, bienvenue dans Basecamp. Basecamp, c'est votre nouvelle émission sur RMC Running et RMC Sport d'outdoor. On va parler de sport outdoor. Est-ce que ça va, Grégoire ?
Ça va, la forme.
Alors, nous, c'est le TDG Sport. Donc, Grégoire, en violet, on est frères jumeaux. Donc, directement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on met le cadre. Violet et Antoine, c'est quoi ta couleur là ?
Là, c'est gris-noir.
Je sais pas.
Et on est deux frères jumeaux passionnés de sport.
On s'est vu où là les dernières années ?
Bah, les dernières années, on a bougé sur énormément d'événements sportifs, que ce soit pour pratiquer, rouler, courir, skier, ou alors pour aller rencontrer tous les athlètes, les meilleurs athlètes français sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, sur les Jeux Olympiques là à Milan-Cortina avec l'équipe de France,
et puis UTMB, Tour de France.
Critam de la première neige, course de ski à Val d'Isère. Donc on enchaîne ça depuis des années, et nous on avait un rêve, on a toujours rêvé de réunir des personnalités du monde de la outdoor sur un plateau comme ça pour débattre un peu de l'actualité, réagir aussi à ce qui se passe un peu dans ce monde là en ce moment. Et avec RMC Sport, c'est ce qu'on a réussi à créer aujourd'hui. C'est pour ça que Basecamp existe. Dans le chat, on vous voit là juste ici sur la tablette. Vous pouvez nous dire comment vous trouvez le plateau, peut-être la DA, tout ça. Non, c'est stylé. On a essayé de ramener un peu notre patte, le violet, le rose. Même mon t-shirt, il est dans la DA.
Mais t'as bien fait ton taf.
Et on a deux invités qui sont eux aussi magnifiques et qui vont bien dans la DA. On a du coup Constant Sireur et Mathieu Delpech. Comment ça va ? Est-ce que vous êtes content d'être ici ? Merci d'être venu déjà pour le lancement de cette émission. Ça va ?
Ben ça va, trop bien. Et vous, ça va ?
Nous, écoute, ça va très très bien. On est content, t'aimes bien le plateau ?
Mais c'est magnifique, c'est incroyable.
Mathieu, t'es venu d'Annecy que pour nous, c'est ça ?
Et ouais, je suis monté spécialement, je monte à Paris une fois tous les 10 ans. Je me suis dit, là, il y a Basecamp qui se lance, c'est vraiment l'occasion d'aller faire un tour à la capitale.
Alors Basecamp, peut-être que on va peut-être présenter un peu ce qui va se passer.
Ouais.
C'est 2 heures d'émission, il y a 3 invités. Donc là, dans un premier temps, il y a Constance et Mathieu qui sont présents. Et dans un second temps, on va enchaîner avec des débats autour du sport outdoor, avec peut-être des temps pour aussi parler de vos actualités, de ce que vous faites en ce moment, la saison qui se prépare. Toi, t'as diffusion du film demain, Constance. Et on va aussi avoir des séquences un peu plus rigolotes avec des jeux, des questions qui piquent. Bref, on est là pour débattre, on va rigoler, on va réagir, ça va être incroyable. Et du coup, on est avec Mathieu Delpech. On l'a pas présenté, Mathieu Delpech, toi t'es trailer professionnel. Tu viens du skyrunning, donc de la course en montagne. Je pense qu'on aura le temps de demander ce que c'est exactement le skyrunning pour ceux qui connaissent pas. 5e des championnats de France cet été à Val d'Isère, je crois. T'es aussi créateur de contenu, tu documentes du coup ton entraînement sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et en plus, là, tu sors d'une prépa hivernale assez costaud. On a des images de toi qui s'entraînent dans le... Je crois que c'est au Verrier, avec du coup Baptiste Chassagne et Antoine Charvelin. Ça se met carpette en ce moment, non ?
Oui, je suis autour d'Annecy. Il y a quand même un beau peloton pour partager des sacrées séances. Et ça fait toujours plaisir de se faire une bonne séance de seuil. Comme on le sait, le seuil est roi. Et Annecy, le terrain de jeu, il est là. Donc on voit sur ces images, on s'est bien ouvert.
Tu peux nous présenter un peu tes deux compères d'entraînement, là ?
Là, on a tout simplement le vainqueur de la Diagonale des Fous, là, qui est en train de nous expliquer la séance.
Facile.
Et Antoine Charvelin, vainqueur de la TDS. Donc des amateurs. Et puis voilà, je leur ai mis un peu la fessée. C'était
ouais,
cool.
J'espère que tu les as fait péter.
Non, la forme est pas mal, on s'est vraiment bien déchiré. Après, ça reste une séance. Hein. Le but, c'est pas non plus d'exploser les adversaires, qui sont plutôt, pour le coup, des compagnons d'entraînement. Mais en tout cas, ouais, Annecy, la vie est belle. L'entraînement hivernal était plutôt costaud avec pas mal de skis. Puis là, on a tout doucement troqué les skis pour les baskets parce que dans quelques jours, il y a le championnat de France qui arrive.
Constance, du coup, t'es 7 sommets Constance sur les réseaux sociaux, 100 000 abonnés. T'es devenue en mai dernier la plus jeune française à avoir gravi l'Everest, rien que ça. Peut-être c'est quand même pas mal.
Peut-être on peut en se dire. Hein.
Parce que à côté de ça, 5e place au championnat de France, bon.
Non, c'est bien. Beaucoup plus ouf encore.
Donc là, t'as gravi en fait dans le cadre à l'âge de 9 ans. Du coup, t'as une catastrophe qui s'est produite. T'as perdu ton père, c'est ça ?
Ouais.
Et depuis, d'un cancer. Et tu t'es lancé du coup l'objectif de quoi exactement ?
Le projet, c'est de faire le challenge des 7 sommets, donc le plus haut sommet de chaque continent. Et j'ai découvert en mai 2021 ses dernières volontés dans une lettre où il explique en fait qu'il souhaite que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure et que j'ai créé aussi une association qui s'appelle 7 sommets contre la maladie, qui a pour but d'accompagner des enfants qui ont un parent atteint de cancer ou qui ont perdu un parent. Et maintenant, je fais plein d'autres trucs aussi à côté.
Ouais, c'est ce qu'on en discutait avant, t'enchaînes de ouf. Tu as gravé là jusqu'à présent le Kilimandjaro,
Oui.
T'as gravi un sommet en Argentine.
Oui, la Aconcagua. Pas facile, je la comprends Aconcagua. Que t'es pas tenté.
Et le Denali.
Et le Denali, ça c'est plus simple, ouais.
Et du coup, le Mont Everest.
Et l'Everest, ouais.
Et du coup, tu diffuses demain au Grand Rex à Paris, 2702 places, l'une des plus grandes salles d'Europe, à 26 ans. Du coup, ton petit documentaire, ton film sur l'ascension de cet Everest qui a duré 40 jours. T'es comment ? Un peu stressé quand même ou t'es chill ?
Un peu fatigué surtout. non, mais je veux dire, l'organisation de gros événements comme ça, ça, c'est quand même pas mal de pression. Il y a beaucoup de travail, il y a du monde autour de nous. Et ouais, demain, on attend pas mal de personnes. Donc forcément, c'est un petit peu stressant. Puis c'est surtout la dernière avant-première. On a fait Strasbourg le 27 février, on a fait Lyon... aussi il y a 15 jours maintenant, et demain en fait c'est la fin d'un chapitre pour moi, donc c'est aussi un petit peu d'émotion.
Ah ouais,
ouais,
on sera demain au Grand Rex pour te voir. Il reste des places, donc ceux qui peuvent venir, je pense qu'on va mettre le lien du coup du Grand Rex dans le chat sur Twitch en direct et du coup sur YouTube. N'hésitez pas à prendre vos places. Nous on y sera, je crois que Mathieu, toi tu dois rentrer à Annecy, les trailers sont des ours.
Ouais, la capitale ça va 24 heures, mais après il faut quand même rentrer dans les montagnes.
Mais 24 heures en soi, tu peux encore rajouter quelques heures et
Ouais, mais je suis arrivé ce matin.
Ça fera je crois que c'était pour qu'il vienne à la diffusion ce soir.
Non, demain.
Demain.
Non, j'ai mon train, je vais rentrer. Il y a quand même l'entraînement qui n'attend pas.
Ouais, je comprends.
Bien sûr, mais en tout cas,
on parlera d'entraînement. J'ai hâte de savoir.
Et vous avez compris, vous avez pris le prix. Le but, c'est qu'on, en vrai, en soi, on est quatre passionnés de sport à outdoor et de pratiques sportives et tout, et on est là pour en parler, pour échanger nos expériences, que ce soit de la performance ou notre histoire. Et on a hâte de le faire. On a un gros programme bien chargé qui va arriver là tout le long de l'émission. Donc j'espère que vous êtes bien prêts avec des séquences assez rigolotes, des séquences aussi on va prendre du temps pour parler de vos projets à vous, et je vous propose qu'on commence du coup sur un débat, une question qu'on se pose nous, et qui je pense vous avez des avis peut-être un peu différents dessus. Du coup je propose chose que comment toi tu nous dises
un peu
ce débat. Et dans le chat, il y a le chat, on a oublié le chat, ils vont bien, ils parlent de Pikachu, mais d'ailleurs il y a un commentaire de Jérôme qui dit on dirait la part d'LTDG, et c'est exactement ce qu'on a voulu représenter, le maillot de Vendressel Roubaix, le petit Pikachu dans le fond,
le livre de Constance.
D'ailleurs ton livre t'en as pas parlé, mais bon, t'as tellement de trucs à raconter.
on aura le temps d'y revenir.
Ouais, non, c'est notre le trophée de 3e de France d'échecs d'Antoine, s'il vous plaît, hein. non mais ça on n'en parle pas assez, c'est une dinguerie.
Bravo.
C'est pas de l'outdoor là, t'es enfermé dans une salle. En vrai, je suis mieux à courir aussi dans la montagne.
En tout cas, c'était vraiment l'ADN qu'on voulait, que ce soit un peu comme dans notre chambre. Tu l'as dit avec émotion, toi, du coup, jusqu'à les dernières années, tes projets sportifs, tu les faisais par hommage pour ton père. Toi, Mathieu, tu cours énormément pour la performance. C'est peut-être plus égoïste. Enfin, j'ai pris le temps de le dire, mais c'est un peu plus. Tu cours pour toi.
Non, c'est ouais.
Ouais, tu cours. C'est le débat. Toi. Et nous, on avait juste envie de discuter ça. Il y a l'avènement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la course à pied. Il y a de plus en plus de monde qui se mettent au sport en général. Il y a aussi plus de gens qui en parlent sur les réseaux. Il y a des plateformes genre comme Strava où tout le monde compare et voit les sorties des autres. Est-ce qu'il faut plutôt courir pour soi ou pour les autres ? C'est la question qu'on a décidé de vous poser ce soir.
C'est la question à 1 million d'euros, c'est ça ?
À 1 million d'euros, j'allais le dire, mais j'ai pas 1 million d'euros, donc laisse tomber.
On l'a posé aussi dans le chat, donc le chat va répondre aussi. On l'a posté aussi sur les réseaux de RMC Sport et Running cet après-midi. Mais du coup, je pense, Constance, tu peux commencer. Pour toi, la pratique du sport, elle part d'une envie d'aventure ou alors d'une envie de performance et peut-être de progresser en tant que personne ?
Alors moi, il y a un peu de tout. Déjà, juste, j'avais quand même pratiqué du sport à haut niveau avant. J'étais skieuse de haut niveau pendant une dizaine d'années, et c'était aussi un petit peu en hommage à mon papa parce qu'il avait toujours souhaité que je fasse de la compète. Et j'en ai fait jusqu'à mes 18 ans, et j'étais du coup en circuit FIS, donc c'est un peu circuit Coupe d'Europe. Voilà. Et là, c'était quand même pas mal objectif performance et gros entraînement, tu vis en ce moment. Et c'est vrai que maintenant, ma pratique du sport, elle a un petit peu changé, mais je pense que de manière générale, quand t'as vécu le haut niveau à un moment dans ta vie, à partir du moment où tu reprends un sport, t'auras toujours cet objectif de performance, de donner le meilleur de toi-même, de progresser surtout. Enfin, c'est aussi mes objectifs. Je fais un petit peu de trail, alors clairement pas à ton niveau.
La MCC cet été avec. Le trail, ça qui est beau aussi, t'auras le temps d'en reparler, je pense.
Ouais, ouais. Mais c'est clair. Mais en tout cas, aujourd'hui, je fais du sport pour moi. et aussi un petit peu pour donner envie aux gens d'en faire. Et particulièrement, ben, moi, sur mes réseaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui ont perdu quelqu'un, ou des personnes qui sont touchées par la maladie, ou qui ont envie de rendre des hommages. Et du coup, c'est vrai que ça passe beaucoup par le sport, par des défis sportifs. Donc moi, c'est un peu autour de tout ça. Donc il y a la pratique personnelle et mon bien-être personnel. Et il y a aussi le côté, ben, partager tout ça pour donner envie aux gens d'en faire, quoi. Du coup, je réponds pas vraiment à la question.
En fait, j'ai l'impression, mais aussi, c'est pour ça aussi qu'on lance le débat, parce que je pense, Mathieu, toi, tu vas nous en parler. Je t'ai parlé d'une démarche un peu égoïste, mais parce que on a tous pratiqué du coup le sport à plus ou moins
à
haut niveau.
À la recherche de la performance.
À la recherche de la performance.
Moi, pas haut niveau.
Je disais le mot égoïste parce que c'est vrai que nous, par exemple, quand on faisait du vélo à plutôt haut niveau, eh ben, c'était quelque chose où on s'est un peu isolé des gens pour pouvoir se consacrer à cette performance. Toi, tu le ressens comment, ça, justement?
Bah, c'est sûr que pour faire du sport de haut niveau, il y a forcément à un moment donné, il faut être auto-centré, parce que c'est une démarche qui prend, qui n'est pas juste je m'entraîne 2 heures dans la journée et en fait, le reste du temps, je peux faire autre chose. En fait, le sport de haut niveau, c'est 24 heures sur 24, c'est se coucher tôt, c'est avoir une hygiène de vie. Et ça, tu ne peux pas forcément le faire si ton projet, il n'est pas centré autour de toi et autour de ce que tu vas faire. Après, c'est possible quand même d'avoir des projets qui sont plus globaux. Et c'est sûr que le sport de haut niveau, il a quand même une dimension qui est d'inspirer les autres. Donc en fait, on ne fait pas juste pour soi, il y a aussi toute cette dimension-là. Et moi, je me suis dit, c'est une question que je me suis posée aussi quand j'ai fini mes études d'ingé dans l'environnement. Je me suis dit, mais là, est-ce que tu te lances à 100% dans le sport, ou est-ce que tu n'aurais pas peut-être une utilité sociale plus élevée à bosser dans l'ingénierie? J'étais dans les énergies, dans l'innovation et tout. Et je me suis dit, ouais, mais c'est quand même plutôt ça qui me fait kiffer. Je vais être plus épanoui. Et en partageant ma démarche aussi sur les réseaux, sur YouTube, j'essaye de montrer un petit peu les coulisses, d'ouvrir tout ça, de pouvoir partager mes valeurs et de sentir aussi qu'il y a une utilité et que je ne fais pas ça que pour moi, que pour ma propre perf, même si c'est quelque chose qui me drive au quotidien.
Oui, il y a un côté de... Tu pratiques le sport, du coup, forcément pour une recherche de performance. Du coup, le chemin pour y arriver, ça passe forcément par des sacrifices et du coup, un aspect un peu plus personnel, mais avec quand même l'envie de partager. Et je pense que là, autour de ce table, c'est tout ce qui nous rassemble. Hein. On court tous, on fait tous du sport. Et
on est tous créateurs de contenu aussi.
Ouais,
on crée tous des contenus pour inciter les gens à faire du sport. Toi, c'est ce que disait l'impression que j'ai... Enfin, quand tu parlais tout à l'heure, Constant, j'avais presque l'impression que tu te sentais investi du coup d'une mission à représenter du coup tous ces enfants qui ont connu un parent malade et les pousser justement à...
Ah mais ils me suivent tous sur les réseaux, hein. Ah ouais. ils regardent toutes mes vidéos, ils m'envoient des messages vocaux, ils m'envoient des vidéos. Ah mais là, j'ai des enfants qui ont 6 ans, qui commencent à courir avec leurs parents, alors 2-3 kilomètres. J'ai des enfants qui ont demandé à leurs parents d'aller faire des courses avec le t-shirt de mon asso pour représenter l'association sur des courses enfants. Ouais. Non, c'est vraiment
c'est
trop chou.
Du coup ta démarche de courir, elle va dans le sens où tu le fais pour toi, mais tu le fais pour les autres aussi, parce que tu te dis, est-ce que c'est pas ma mission aujourd'hui de courir?
C'est ça
à ce point là
En fait, moi j'adore les défis et j'adore le sport, ça fait vraiment partie de... enfin c'est un besoin. J'ai besoin de faire du sport tous les jours. Si je fais pas de sport, ça fait partie de mon bien-être. Et du coup, aujourd'hui, je cours plus en mode bien-être et pour être physiquement en forme, etc. Mais il y a quand même aussi vraiment cette vision où je sais que les enfants, ça les drive vachement. Et après, du coup, les enfants, ça s'associe à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, quoi. Mais je fais beaucoup pour eux.
Le sport, ça va au-delà de juste s'entraîner, qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut partager, plein de valeurs qu'on peut diffuser. Et moi, j'essaye quand même, dans mon contenu, c'est souvent centré autour de comment s'améliorer, éviter des erreurs. Mais ça va au-delà de tout ça. Dans le podcast, là, on avait aussi Vincent Bouillard. C'était une interview qu'on a fait la semaine dernière.
Vainqueur de l'UTMB. Hein.
Ouais, le vainqueur de l'UTMB. Et il nous expliquait à quel point le sport pouvait aussi être politique. Le sport pouvait être une vitrine pour partager des choses qui vont au-delà de juste t'as couru à quelle vitesse, t'as mangé combien de grammes de glucides par heure. Ça, c'est une vision que je partage vraiment avec lui.
En fait, même au cours de l'histoire, il y a beaucoup de gens qui, à travers la performance, ceux qui ont atteint des niveaux stratosphériques dans leur sport, ils arrivent à utiliser justement cette image, ce statut qu'ils ont atteint pour justement communiquer. Et c'est là où peut-être que ce côté qui est à la base purement égoïste de la performance devient un moyen de communiquer et de faire passer des messages qui sont chers aux autres, quoi.
Ouais, il y en a pas beaucoup qui osent parler d'autre chose que de leur sport, mais parce que souvent c'est toujours lié à beaucoup de critiques, mais par contre c'est des messages qui ont énormément d'impact et sur tous les enjeux, et ça a été montré aussi par des études que les sportifs sont écoutés sur tous les enjeux, même si c'est des sujets où ils sont pas forcément hyper compétents à la base, et ben vu qu'ils ont une plateforme et qu'ils sont suivis, ça peut avoir des très gros impacts, et ce soit notamment sur la crise climatique et sur tous ces enjeux-là. Moi c'est des choses aussi qui me parlent fortement et que je partage ma démarche autour de ça, les questions que je me pose, etc. Et ça, c'est ben, les sportifs ont un rôle à jouer là-dedans. Et donc, même s'ils font leur sport pour eux, ils peuvent aussi se poser des questions comment être utile pour plus de monde.
Mais ouais, complètement d'accord. Du coup, tu cours aussi pour la performance et via la performance et la communication, tu peux inspirer. Mais du coup, la place de tes proches, parce que peut-être quand on parle de courir pour les autres, ça, je parle là, tu vois, je sais pas,
au constant, en ce moment, tu dis t'es fatigué et tout.
Ouais,
aussi,
c'est ça,
tu vois,
la famille et entre Paris, Lyon et tout, t'as pas le temps de donner du temps à tes proches. Et du coup, là, on est dans une recherche. Enfin, à quel point on perd du coup le partage, l'essence même de ce qui compte pour nous, de la famille, dans une pratique sportive, même si c'est pour inspirer les autres.
Quand je prends un dossard, en fait, quasiment tout le temps, bah, y a mes parents et mon frangin qui sont au bord du parcours pour me faire l'assistance, pour me suivre. Et c'est sûr que quand il y a un dossard et qu'on est en train de s'éplucher sur le parcours, en vrai, on court tout seul, mais il y a quand même toute une équipe qui est autour de nous. Et ça peut vraiment porter. Moi, j'ai vécu des courses. Si j'y étais allé tout seul, j'aurais abandonné mille fois. Je pense notamment à un 100 km que j'ai fait dans les Pyrénées, l'Ultra-Pyrénées. Et là, j'ai eu des grosses douleurs assez tôt dans la course. Et s'il n'y avait pas mes parents, mon frère qui était venu faire le déplacement, qui était venu m'encourager, me soutenir, j'aurais bâché, hein, c'est sûr. Et ça, c'est quelque chose qui porte. Et aussi, ça permet de partager les courses et de faire ça, pas que pour nous.
Je fais une petite pause pour saluer le chat. Il y a beaucoup de monde qui nous regarde. Il y a plus de 1000 personnes, je crois, on m'a dit.
Il y a Clem qui court, qui galère à
trouver. Il y a Clem qui court, qui galère à se connecter parce qu'il a l'île Maurice. Du coup, c'est cool de voir du coup ce monde de la outdoor qui se réunit et tout. J'espère que dans le chat, n'hésitez pas à vous aussi nous donner vos avis sur ces questions. Bah, Clem qui court, qui passe, tu vois, moi, tu parlais de rassembler avec ta famille, tes amis. Je pense qu'il l'a très bien documenté cette année dans le trail. De voir qu'il y a une équipe, une famille autour d'un trailer et pas seulement une seule personne. Et là, je pense, tu vois, peut-être que tes proches qui ne courent pas, et ils partagent le sport avec toi, mais d'une autre manière que de courir. Donc, c'est du coup ta pratique de ta performance, entre guillemets, égoïste, elle devient peut-être aussi globale avec un projet global.
Ouais, c'est sûr que c'est vraiment des moments de partage qui sont très très forts. Et autre chose aussi, j'ai fait pas mal de raids multisports quand j'étais plus jeune, et je trouve que c'est souvent en partageant vraiment les courses que ça décuple les émotions, quoi. Quand on fait vraiment avec une équipe, que ce soit un raid multisport où on court vraiment avec ses coéquipiers, ou même dans le trail quand on a fait un ultra et qu'on a revu plusieurs fois son staff, son assistance, de les voir à la ligne d'arrivée, ça décuple vraiment les émotions, ça rend le sport aussi plus beau, plus fort. Alors que si c'est quelque chose qu'on va faire tout seul, je pense que il y a toujours la satisfaction quand fini la course, si tu as fait un bon résultat, mais c'est jamais aussi intense que quand tu le partages.
Et toi, Constance, en montagne, c'est peut-être plus d'un à la famille, mais on te voit beaucoup sur les images avec ton vidéaste Hugo Lorenz. Tu crées des liens aussi dans le sport.
Donc, dans des expéditions, oui. Tu pars en équipe et ton équipe, c'est. Faut que c'est. Enfin, t'es hyper proche d'eux parce que de toute façon, tu sais que tu pourras pas y arriver toute seule. Donc, oui, et mon binôme Hugo, je suis très proche, on est.
C'est marrant parce que du coup, le truc d'équipe qui t'accompagne sur les courses pendant un ultra-trail qui fait des ravitaux la nuit et l'équipe qui est à tes côtés pour filmer, pour t'accompagner, les Sherpas peut-être aussi.
Les Sherpas, en fait, les guides, les cuisiniers. Enfin là, sur l'Everest particulièrement. Après, sur les autres expés, il y a un peu moins de monde. On est quasiment... Enfin, on n'est pas en autosuffisance, mais... Le Denali en Alaska, par exemple, tu portes toute ta nourriture, t'as juste un guide. Et...
La réponse au débat de il faut courir pour soi ou pour les autres, il faut courir pour soi pour inspirer les autres ou pas genre.
Je pense qu'à la base, c'est important de courir pour soi parce qu'il faut déjà prendre du plaisir dans ce que tu fais. C'est quand même la priorité numéro un. Et après, si en plus de courir, tu peux inspirer des gens, disons que c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais j'ai envie de dire, la première étape, ça reste quand même courir pour soi et après... Et après, s'il y a du monde qui suit parce que tu cours, tant mieux, quoi.
C'est sûr qu'à la base, il faut être motivé pour soi-même, mais c'est sûr, et c'est aussi cet équilibre d'avoir un projet plus global qui va permettre de continuer. En fait, c'est un tout.
Okay, et puis même sur l'investissement de temps, enfin, tu vois, en sport de haut niveau, je veux dire, t'investis tellement de temps et tellement
c'est
d'énergie.
Horrible.
Je veux dire, si tu le fais pas pour toi, ça tiendra pas sur la durée. Enfin.
Puis il y a du plaisir à aller dans la performance, te voir progresser, te voir réussir tes exploits.
Des choses que tout le monde pense impossible. C'est ouais. Ça, je pense, qui est ouf.
Ouais.
C'est ça qui est costaud. En tout cas, nous, on avait demandé au chat de voter. Et 60% du chat, on a mis budget.
Attends, mais... T'es jamais allé à l'école et...
Ouais, j'ai arrêté l'école et pourtant j'ai avec ma petite attente. 60%.
T'as vraiment arrêté l'école?
Il a pas son diplôme.
On peut en parler à un autre moment, là? Tu m'humilies en direct?
Alors que là, t'as un trailer professionnel qui a son diplôme d'ingé. T'as Constance qui est la plus jeune alpiniste à avoir gravi l'Everest qui a...
J'ai un bac plus 5. Hein.
Bac plus 5 en plus.
J'ai fait
bac plus 5, t'as eu des expériences de fou dans des grandes maisons de luxe et tout, non?
Ouais.
Voilà, et toi, c'est complexant. C'est complexant et
mais
je
t'es là, c'est bien, c'est la première. Attends, sois fier de toi. C'est cool,
non, je suis fier de toi.
Alors que moi, j'ai un diplôme. Me demandez pas.
Pardon.
60% du chat et des personnes pensent que du coup commencent à courir pour soi avant de courir pour les autres. Donc je pense que c'est un peu dans ce que vous avez dit, je pense que tu l'as dit, tu commences à courir pour toi et après t'as un
mais
côté
que 60%, ça veut dire qu'il y a 40% qui courent pour les autres.
Bah, ça veut dire, je pense qu'il y a peut-être dans les 40%, dites-nous dans le chat si on est, si on, vous êtes d'accord, il y a peut-être genre justement des gens qui ont été inspirés par d'autres personnes et qui vont courir pour justement pouvoir accompagner leurs potes, leurs copines
ou leur
famille dans leurs exploits sportifs, peut-être.
Parce qu'on fait semblant de bosser. Moi, j'avais regardé un peu des stats et tout sur les chiffres du running qui sont, vous pensez bien, en explosion.
Ouais.
Et du coup, il y a quand même une grosse partie des gens qui vont courir pour être en running club avec des gens. Il y a aussi ce côté courir ou faire du sport. En général, on parle de courir parce que c'est ce qui nous relie tous, mais faire du sport pour le côté social aussi.
Ok.
Et je pense que c'est là-dessus. Et je pense qu'aussi, t'as aussi peut-être une quête qui n'est pas vouée à toi. Tu vois, peut-être, regarde-toi conscience, t'as commencé à faire de l'alpinisme.
Sûr. Je n'ai pas fait de l'alpinisme parce que je me suis dit un jour, je vais faire de l'alpinisme.
Oui, mais à la base, t'étais quand même skieuse de haut niveau, quoi.
Oui, c'est sûr. Ouais. Mais c'est vraiment deux sports différents.
On va parler un peu plus de toi, Mathieu, tes objectifs cette année, comment tu t'es préparé, t'es peut-être dans les courses de la saison dernière. Mais avant ça, on a un petit jeu. Alors, bah justement, Brian, avec toutes les équipes en régie, ils ont préparé un petit pêle-mêle d'images de toi qu'on va devoir commenter comme ça en improvisation. On ne sait pas de quoi ça va parler.
Je crois qu'ils ont bien bossé. Ils m'ont dit qu'ils avaient appelé tes proches et il y a un montage qu'on n'a jamais vu.
Et là, on va devoir le commenter en
direct. Là, tu vois, là, je réalise mon rêve.
Vous commentez là et moi, je commente
le
commentaire.
On va voir les images sur l'écran.
À la fin.
Et Mathieu Delpech qui vient remporter une course de crème très très jeune, plus de 60 courses dans sa carrière.
Mal commencé. Delpech à la place de Delpech ou Delpech, on ne sait plus. En tout cas, il fait du perfil.
Oh, il adore dans
ça. Là. Il a cassé la démarche comme Samuel Umtiti.
Il a deux fois tiré la langue.
Attention.
Soulever de la fonte, c'est vraiment un très très grand athlète.
Ben, c'est un athlète de très haut niveau. Regardez ce qu'il arrive aussi à faire sur des poteaux. C'est exceptionnel.
Premier.
Attention, il gravit. Meilleur grimpeur que Constance, du coup.
Oh là là. Et regardez, là, c'est un kiffeur. Il aime kiffer dans la montagne. Il aime kiffer dans la
toujours
vie.
Toujours le
aussi.
Smile, même si c'est de force.
Et voilà, terminé la CCC, 16e. Troisième français.
Exactement. Ils ont bossé.
On a quelques stats. Et là, on le voit tranquillement en équipe de France au championnat du monde.
Un randonneur en fait.
C'est
un randonneur.
Dans
c'est
une
pas
course qu'il a vraiment réussi.
Et
un énorme paf.
Énorme tarfé.
Mathieu, tu nous as mis la larme à l'œil. Merci beaucoup d'être là. Et je pense qu'on a bien résumé quel athlète t'étais. En tout cas, j'espère.
Tu t'es dit. J'ai pas les mots.
Sur 10 là, si tu devais noter.
Vous avez vu, je m'entraîne pour Koh-Lanta pour l'épreuve des poteaux.
Oui, j'ai vu.
Et après aussi pour soulever les poutres comme ça là.
Ah oui.
Et tu nous racontes, c'est quoi ce truc où tu montes à un poteau?
Et ça, c'est à Gérone. Il y a un poteau en Espagne. Et celui en haut, si on fait un petit bisou au personnage qui est en haut, apparemment, ça porte bonheur. Et donc, je me suis dit, non, mais là, faut que je monte mes capacités de grimpeur. Et donc, j'ai fait ça et j'espère que ça va me porter bonne chance pour la saison à venir.
Et on a juste une dernière image à te montrer. C'était pantoufle, faut qu'on en parle.
Non mais attends, mais dis à ton partenaire de t'envoyer quelque chose. Non mais c'est quoi ça?
Mec, c'est une honte.
Ça, c'est les pantoufles les plus confortables du 21e siècle.
Mais ils ont pas l'air confortables, on dirait qu'ils te veulent du mal.
On dirait des sabots.
C'est des babouches, elles sont plus âgées que moi, je crois.
Ouais.
Mais dedans, j'ai mis des semelles orthopédiques, donc elles sont reparties pour 20 ans. Là.
Conscience, avec ça, il peut monter sur l'Everest ou pas?
Non, je pense que tu risques de te geler les pieds là, par contre.
On dirait pas les chaussures d'un tournage Game of Thrones. Genre,
ils veulent pas être là, c'est une prise d'otage. Genre.
Ça bah, tient chaud.
Même les chaussures, ils en peuvent plus, ils osent pas te le dire. Faut les lâcher, magnifique. Mais comme quoi, en fait, athlète de haut niveau, c'est la prépa, mais c'est des moments sables comme tout le monde, en fait.
Oui, oui. La sobriété avant tout, faut garder les mêmes chaussures, c'est important. Gardez les pieds sur terre.
C'est bien. Mais t'es un gars de chill, toi, si tu devais te définir, du coup. T'aimes courir dans la montagne, performer et être tranquille à la maison.
Ouais, globalement, moi, j'aime les choses simples. Hein. Passer du temps dehors, rentrer chez moi, faire la sieste, manger des bons trucs, tranquillou. Mais ouais, ça me définit assez bien.
Et donc, Mathieu, ta saison 2025, grosse saison quand même pour toi. Donc, on l'a dit, la place 5e de France à Val d'Isère notamment. T'as été sélectionné pour les championnats du monde.
Remontada au Templier,
Remontada au Templier.
Les gars, ils ont trop bossé, ils m'impressionnent. Ah.
Remontada, parce que c'est ta dernière course de la saison, peut-être on commence par là. Là, j'ai pris le lead.
Ouais, donc j'ai pas le choix, tu me poses la question, mais en fait, pas le choix.
En fait, j'ai pris le chat en otage. On commence par là ou pas, le chat, dites-moi.
Non, c'était pas posé la question aussi.
Du coup, Templier, c'est une course, c'était la dernière de la saison. Tu pars 25e et tu remontes 5e. Ça arrive pas si souvent que ça, non, dans le trail. C'est un arc-en-ciel, genre, c'est une roulette au football.
Ouais, moi j'aime là surtout que cette course, je l'avais pas hyper préparée spécifiquement. En fait, j'ai rebondi sur cette course après un échec au championnat du monde qui s'était pas passé comme prévu. Et c'est des courses qui demandent des qualités hyper différentes. Et les Templiers, c'est vraiment la grosse classique en France de fin de saison. Il y a quand même une bonne prime et donc un beau plateau d'internationaux. Et je savais que j'avais pas trop travaillé mon plat. Et au début, il y a des longs plateaux à parcourir. Je me suis dit, pars tranquille, la course, ça va être 7 heures, t'auras largement le temps. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, vraiment, j'ai pris trop de plaisir. J'avais pas de stress sur cette course comparée au championnat du monde parce que j'y suis un peu allé. Allez, je finis ma saison là-bas, on va voir comment ça se passe. Et donc, grappiller du monde, c'est vraiment des courses où bah, ça fait trop plaisir. T'as des bonnes sensations tout du long, tu doubles des gens, donc c'est hyper motivant. Et forcément, bah, la dernière heure, ça commence à être vraiment dur dans les pétards de la fin des Templiers, mais ouais, c'était trop cool de finir la saison sur une bonne note quand même.
Surtout que tu dis que t'es à la cool, à tel point que ton équipe aussi, ils t'ont donné le mauvais sac au ravito, non? T'as pas eu la bonne bouffe, t'as terminé sans gel.
Je balancerai pas qui a fait cette erreur, mais.
Balance, s'il te plaît, donne-nous des noms. Ouais, c'est là où courir pour les autres, ça devient un peu problématique, mieux vaut courir pour soi en fait. Tu peux pas faire confiance aux autres.
Parcours, j'avais préparé les sacs de ravito et il faisait encore nuit, c'était le début de la course, enfin c'était après une trentaine de bornes. Et moi, je suis arrivé au ravito, bah, pas le temps de niaiser, je prends mon sac et je m'arrête même pas, je pars en courant. Et quand, au moment de ranger un petit peu les affaires, je me rends compte que j'ai que la moitié de la nutrition que j'avais prévue sur la section. Petite improvisation, globalement, j'ai pas perdu d'énergie, j'ai réussi à garder mon sang-froid et ça l'a fait.
Et du coup, donc 2026, là tu reviens d'une grosse prépa hivernale, on en parle juste après, mais t'as annoncé du coup ton plan de course avec début au chemin de France de trail du coup.
Dans 10 jours finalement.
Du coup, dans le chat, il y a personne qui a une place, un petit dossard là pour la Zegama.
On cherche un dossard pour Zegama.
S'il vous plaît, pendant qu'on est là, on a RMC Sport en otage donc. Après 98 Mont Blanc, CCC.
Voilà,
les grosses classiques. Comment sera Marathon du Mont Blanc ?
De la Vallée de Chamonix, ouais. Sur l'événement marathon, sur le format 90.
Tu seras sur le 90 toi aussi ?
Non, pas 90 encore.
L'année dernière, tu as fait le 23 ?
Non, le 45. Okay. Enfin, le marathon, quoi. Okay. Et 42, et je refais le 42 cette année.
Ok.
Oh, j'ai pas encore annoncé.
Avec un. Ah bah.
Oh, les voilà.
C'est ça, du coup, ton projet secret que tu tiens.
Ah non, c'est pas ça du tout, non. J'ai sûr que vous allez pas le dévoiler ce soir.
Hein. Mais du coup, on l'a pas.
Ah bah voilà.
On l'a pas. Peut-être. Non, on l'a pas. Et je pense que toi, Constance, ta saison, elle se construit plutôt sur des courses que t'aimes faire sans te prendre trop la tête au niveau du trail, je parle pas au niveau de l'alpinisme.
Ouais, oui, pour le moment, oui. Après, il y a un des plus gros objectifs trail qui arriveront à la fin du challenge des 7 sommets jusqu'à 2028.
Donc. Ah, on a hâte de savoir. Voilà. Par contre, toi, Mathieu, comment on construit une saison au niveau professionnel?
Parce que du coup, c'est intéressant de pouvoir.
Bah oui.
Ouais, c'est il y a beaucoup d'enjeux à réunir, à réfléchir. Il y a déjà, ben, on peut pas être en pic de forme tout le temps. On peut pas non plus faire une course tous les week-ends. C'est pas comme certains événements où tu récupères vite. Là, moi, en plus, je fais du trail long, d'ultra, et donc des objectifs, tu peux en faire que deux voire trois dans la saison quand t'es gourmand. Et donc, quand il y a une cartouche, faut pas la rater. Faut bien réfléchir à ça. Mais avant tout, je pense qu'il faut choisir les courses en fonction de ce qui te motive, en fonction de ce qui te fait vraiment rêver, pour ensuite pouvoir bien t'entraîner dans des bonnes conditions. Parce que si tu prépares une course et que tu traînes les pieds à l'entraînement, ça peut pas marcher.
T'as dit trail long, ultra, trail court, c'est quoi la différence environ, qu'on se rende compte un peu.
Running, même toi de base, tu viens de c'est quoi les différents formats?
Ouais, en fait, le trail c'est vraiment large et c'est juste courir dehors, courir dans les sentiers. Et on a la chance d'avoir un sport qui est hyper varié, d'avoir des courses qui sont super différentes et on peut faire le choix de faire des choses qui sont tout le temps différentes. Et le trail, ça va du kilomètre vertical, donc c'est 1000 mètres de dénivelé, c'est des formats pour les meilleurs, ça dure moins d'une demi-heure, jusqu'à 100 miles, donc 160 km. Et maintenant, il y a toujours des courses qui sont toujours plus longues, 250 miles. Franchement, il y a toujours des formats qui repoussent les limites de l'endurance. Il y a un peu de tout. Et donc, les catégories qu'on donne habituellement, c'est trail court, c'est jusqu'au format marathon. Ensuite, trail long, c'est plus de marathon jusqu'à 80. Et au-dessus de 80, c'est des ultras.
Et du coup, comment, avec ce spectre, on construit sa saison? Peut-être du court pour commencer, du coup nerveux. Ensuite, tu augmentes un peu tranquillement la distance pour arriver du coup à la CCC 100 km.
Ouais, il y a plusieurs organisations qui sont possibles. Moi, je vais faire plutôt un début de saison où je vais enchaîner un petit peu plus des formats 40-50 km parce qu'il y a encore des qualités à travailler là-dessus. J'aime aussi la bataille et les sensations qu'on a sur ce parcours. Et puis après, espacer plus les objectifs, prendre le temps de bien se préparer. Et puis après, les ultras, il faut aussi prendre avant, faut commencer à deux semaines avant, commencer à lever le pied pour pouvoir faire remonter la forme et pas arriver surchargé, pour pas arriver fatigué. Et après, ça prend une semaine, deux semaines après où on doit vraiment récupérer, où on doit faire passer les petites gènes qu'on puisse créer, prendre le temps que tout le corps il se rééquilibre. Donc déjà, ça prend un mois avant et après la course juste pour décharger et récupérer. Et ensuite, une prépa d'une course longue, c'est au moins deux mois pour avoir le temps de refaire des qualités, de refaire du spécifique. Donc voilà, c'est deux, trois mois pour chaque gros objectif.
On va te représenter un peu plus peut-être en profondeur. Aujourd'hui, toi, t'es athlète professionnel, tu crées du contenu sur ta chaîne YouTube, t'as ton podcast aussi sur du coup toutes les plateformes de streaming. Tu te définis comment, d'abord comme athlète et après comme créateur de contenu, ou
Ouais, à la base, je me définis quand même plus comme athlète parce que c'est quand même ça qui guide ma démarche et ça, où est ma priorité au quotidien. C'est avant tout mes entraînements, bien récupérer. Et quand je peux, ben, je crée du contenu, j'ai cette démarche un petit peu plus globale autour de la visibilité. Mais c'est sûr que les deux maintenant vont vraiment ensemble et ça se voit aussi dans mes contrats. En fait, les deux sont liés. On me demande souvent, tu gagnes plus d'argent avec le trail ou avec la création de contenu. Et en fait, je peux pas trop répondre à cette question parce que ma visibilité, elle est vraiment liée à mon projet sportif et ma valeur sportive, elle est aussi liée au fait que je sois visible sur les réseaux, donc c'est deux choses qui sont complémentaires. Mais ouais, c'est vrai que j'ai maintenant cette démarche entrepreneuriale qui est un peu plus globale avec
entrepreneur le type quoi.
Ouais, moi en vrai on peut dire ça parce qu'il y a quand même plein de compétences qui sortent du sportif, gérer des équipes, gérer des budgets, prévoir de la logistique.
Même genre moi ce que je trouve ouf et on en parlait un peu avant l'émission, c'est genre cette capacité à se dire vas-y, j'ai des gros objectifs sur un athlète professionnel. Par contre, je vais me filmer. Et du coup, tu écris tes vidéos parce qu'en fait tu tournes en plus beaucoup de face cam, donc tout est écrit en amont. Puis tu les montes aussi toi-même derrière et tu les diffuses aussi toi-même derrière. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte comment il y a beaucoup d'athlètes qui mettent la performance au centre de tout. Et ouais, enfin, toi, tu sais aussi tout le temps que ça t'en.
Ah, mais c'est du taf de ouf, hein. C'est un vrai job. Hein.
Mais gérer asso aussi, gérer une asso, un projet et faire du sport.
En fait,
aussi,
c'est l'énergie que vous mettez tous les deux dans vos projets. La création de contenu, c'est une quête secondaire quand t'es athlète.
Ouais, mais ça nourrit aussi.
Mais c'est vrai.
C'est vrai, c'est sûr, ça demande beaucoup d'énergie. Et là, je me suis lancé peut-être parfois dans un peu trop de projets. Le podcast, là, c'est un projet.
Le trail qu'on aime, hein, d'ailleurs.
Le trail qu'on aime, voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner pour les passionnés de trail. Vraiment, on se régale avec l'équipe à vous décrypter un peu l'actu, à inviter des personnes qui nous inspirent, qui ont des choses inspirantes à dire, des personnes qui font l'actu. Et donc ça, c'est aussi du travail de préparer les épisodes. Moi, je gère un petit peu le montage et la diffusion, mais là cette année je suis arrivé un petit peu à un point clé où je faisais trop de trucs et du coup je me suis entouré cette année, notamment pour le podcast, on avait pris committee manager cette saison sur tous les gros objectifs. J'ai vraiment envie d'avoir un réal avec moi qui va m'aider pour les vidéos YouTube, qui va apporter aussi sa vision créative pour essayer de faire du contenu de meilleure qualité et que de moi me décharger sur les événements, que j'ai pas trop de trucs à penser. J'aurais quand même ma petite caméra embarqué parce que ça, maintenant j'ai pris l'habitude et ça me fait trop kiffer de faire le con pendant la course. En vrai, sur l'ultra, on a quand même le temps souvent de sortir la cam.
Ouais, t'as le temps de sortir la cam, mais est-ce que ça te prend pas de l'énergie qu'un autre gars ne passe pas dedans?
Et ben en fait, vu
que. Parce que même nous, en tant que créateur, nous, on court, je pense qu'on est d'accord. Moi, je sors pas le téléphone pendant ma course.
Pourtant, moi, je sors le téléphone pendant ma course. Ah bah oui, je récap toutes mes courses.
Mais mec, moi, je suis traumatisé pour faire centième de la MCC.
C'est vrai que la question, elle est légitime. Mais en fait, vu que je le fais depuis toujours, je fais tout le temps à l'entraînement. Et ben, c'est automatique. Et tu le fais que dans les moments où c'est un peu plus relâché, dans les moments où il y a pas de tension. Et c'est sûr que quand j'étais au Templier, dans les 20 derniers kills, où je commençais à vraiment remonter, à sentir qu'il y avait peut-être même un podium qui était en jeu. Là, la caméra, elle pèse 40 grammes. Donc ça, c'est pas un souci de poids et tout. Mais là, la caméra elle reste dans la poche, tu es dans ton tunnel. Mais en début de course, quand c'est plus tranquille, quand t'as le temps, en vrai ça se fait.
Attends, mais du coup 40 grammes une caméra, quand on voit que tout l'industrie essaye de développer les chaussures,
on vient du vélo,
40 grammes, t'as parlé aux mauvaises personnes, c'est
40 grammes, c'est le poids d'un gel, donc
tu l'as dit, bah tu l'as
un
dit.
Gel de moins. C'est pour ça qu'ils t'ont privé de bouffe à la fin de la Templier.
Il a sa caméra, il aura un gel de moins. Et il y a Clem qui t'a mis un message, il a dit non Mathieu, tu es un influenceur. coupable Mathieu.
Écoute.
Après,
un influenceur qui est champion du monde par équipe de trail. Clem, j'attends ta réponse.
Et surtout, dis-le, 868 ITRA.
Ouais, c'est ça. Donc, pour ITRA, pour ceux qui connaissent pas, c'est le classement dans le trail. Ça va de 0 à 1000 pour les tout meilleurs. Sachant qu'au-dessus de 900, c'est vraiment l'élite internationale. Au-dessus de 850, c'est les meilleurs français. Donc, ma quête cette année, c'est d'essayer de passer les 900. Ça fait plusieurs années que je m'en approche un petit peu sur quelques courses. Et là, je suis dans des bonnes dispositions. Au début de saison, je suis vraiment content de ma prépa hivernale, donc ça serait trop cool d'aller péter cette barre mythique des 900. Je pense qu'en France, il y a une vingtaine, une trentaine d'athlètes qui sont au-dessus.
Et pas Clem qui court.
Clem qui court, je crois qu'il se bataille avec les 700.
Mais il est au-dessus d'Antoine encore.
Moi, j'ai 697. Attends, moi aussi, je me bataille.
Il y a Art Grinder là dans le chat qui nous demande si t'as, maintenant que t'es dans la même équipe chez Brooks avec Théo Détienne, est-ce que tu lui as donné des conseils pour ne plus DNF?
Ouais, on a fait un petit stage de début de saison là où on s'est rassemblés tous en Espagne et on a fait une course de 600 mètres de long et là Théo a réussi à finir, donc c'était quand même un petit exploit de la part de Théo Détienne d'arriver au bout de la course et il a fait quand même avec brio, il faut l'avouer, il a déposé tout le monde, même les spécialistes de la route, les athlètes Brooks qui étaient là, un petit comment monter, d'ailleurs c'est sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir.
Et d'ailleurs, tu peux lancer un pic, hein. T'es aussi, c'est un influenceur, hein, ou un athlète.
Bah, tous pareil, tous dans le même saut.
Mais du coup, ça fait combien de temps que tu vis seulement du trail? Parce que t'as fait des études longues. À l'INSA, tu m'as dit 8 ans pour finir une école d'ingé.
Ça fait. Oh. En 2023, j'ai eu mon diplôme d'ingé. Ouais, j'ai fait un parcours aménagé où, au lieu de le faire sur 5 ans, j'ai pris le temps, j'ai fait sur 8 ans. Mais je suis quand même allé au bout et après. Je me suis dit non, mais ce qui te fait kiffer, c'est courir, vas-y. Et donc, ça fait 3 ans que je vis pleinement de ça et que ça se développe.
Félicitations, c'est difficile ou pas? 8 ans, j'ai des DNF au bout de 3 ans, mon école. C'est vrai, il a fait 8 ans. C'est un ultra, en fait.
Exactement.
C'est fort, ouais.
Toi, Constance, c'était plus court, t'as fait Bac+5.
Bac+5, ouais, bah, juste.
Moi, j'ai alternance chez LVMH, c'est ça?
Ouais.
Voilà, première de la classe. Voilà. C'est bon. Non, mais trop forte. Trop forte. Et après, du coup, ton projet était lancé après, toi?
En même temps que mon alternance. Non, mais c'est pour ça, c'était une année ultra intense. Genre, j'étais sur la création de mon asso, la fin de mon mémoire, j'étais en alternance à Paris chez LVMH. La veille de commencer le Mont-Blanc, j'ai dû rendre mon mémoire. Et genre, 3 jours après avoir réussi le Mont-Blanc, j'avais mes oraux de mémoire. Mais j'ai eu 16 ans quand même.
Moi, ça m'impressionne toujours les gens qui font le double parcours et tout ça. Et
j'ai toujours fait tout en double. Genre, j'ai toujours eu double vie. Double.
Waouh, on peut pas savoir ça.
je veux dire que j'ai toujours. Enfin, par exemple, pendant mon parcours scolaire, j'étais pas au niveau, donc j'avais pas de cours aménagés, quoi. Donc je ratais juste les cours.
Ah ok, et donc tu devais rattraper après avec les quotas, l'école et tout. Ouais. Parce que t'avais pas le statut sportif de haut niveau, quoi.
Ben j'aurais pu l'avoir, mais ma mère a pas voulu.
Ah ouais, ok. Et pour que tu
regrettes ou pas
sur les épreuves?
Non, je regrette pas.
Bon bah merci maman alors.
Oui, non, franchement je regrette pas. Ben non, mais parce que de toute façon à un moment j'avais plus le niveau pour aller en équipe de France ou pour être vraiment dans le top niveau du ski, donc c'était très bien comme ça.
Moi ce qui m'intéresse, ce qui était cool de vous avoir tous les deux en même temps sur le plateau pour la première émission, c'est que j'ai l'impression que Constance, tu fais du trail l'été pour préparer tes hivers, et que toi Mathieu, tu fais genre du ski alpin et de la montagne l'hiver pour préparer tes étés en trail.
Ouais, clairement, et son anecdote de finir les examens et d'aller en montagne, ça m'a rappelé la fois au ski où j'ai fait le Mont Blanc, j'avais fini, je crois que c'était en juin, j'avais fait mes derniers examens le vendredi à 16h. Le vendredi à minuit, on attaquait le Mont Blanc avec un de mes potes de l'école et on l'a fait en one push, c'est trop cool et c'est des bons souvenirs.
Les retours la journée?
Ouais, on est parti à minuit, à 7h, on était.
J'ai déjà attendu ça, mais.
On était au sommet et puis après on est redescendu et donc c'était torché le samedi à midi. Samedi à midi, on était.
Dis là, fais le Mont Blanc comme toi, tu dis, t'as fait tes 10 km le samedi matin.
On était au burger et donc dédicace à mon pote Guillaume qui m'a beaucoup emmené en montagne, qui continue de m'emmener, c'est toujours un plaisir.
Et toi, tu l'as essayé le one push sur le Mont Blanc?
Ouais, et en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, je bossais encore à Strasbourg parce qu'après, j'étais en CDI pour un tournoi de tennis pendant 3 ans. Là, j'ai démissionné qu'en octobre dernier, hein, donc ça fait que depuis octobre que je suis là. Ouais,
non, mais c'est fou.
Je travaillais, j'étais en CDI dans un bureau.
Non, c'est, enfin, je sais pas si les gens se rendent compte de la charge en fait.
Ouais, CDI.
Donc à côté, sans parler de la création de contenu des projets, c'était aussi toute la côté.
J'avais un travail de 9h à 17h comme tout le monde, quoi. Et du coup, on était sortis. Enfin, moi, Hugo était encore en alternance, je crois, à ce moment-là. Je me souviens très bien, c'était un jeudi. Je sortais du boulot à 17h et on s'est dit, on va tenter d'aller jusqu'à Cham et tenter le Mont Blanc en direct. Après une journée taf et là par contre c'était un petit peu trop. Genre, mais avec vous on faisait on a toujours été un peu nos limites en mode bon on teste, on verra bien si ça passe ou pas. Et j'avoue que là ça a pas passé, mais on a des sacrées anecdotes aussi sur nos transports vers l'Argentine, des choses comme ça.
Mathieu, est-ce que tu conseillerais à un jeune aujourd'hui de se mettre au trail? Et qu'est-ce que tu penses de moi je l'ai vu aussi sur Marathon du Mont Blanc, sur l'UTMB, t'as beaucoup de jeunes qui veulent devenir pro au trail.
Il faut avoir une motivation qui soit plutôt intrinsèque à l'activité. Avant de vouloir se dire j'ai envie d'être pro en trail, il faut d'abord avoir couru plusieurs années et savoir qu'on prend du plaisir là-dedans. Il faut éviter un petit peu les raccourcis en se disant mais il y en a qui vivent de ça, je veux vivre de ça. Avant, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ça te fait vraiment kiffer? Est-ce que t'aimes être dans la montagne? Est-ce que t'as déjà un petit peu des capacités physiques qui pourront te permettre de le faire?
C'est ça, parce qu'en dehors de l'entraînement, je pense qu'il faut quand même avoir une vraie base physique. Dès le départ, il y en a certains, ils courent vraiment bien, quoi.
Ben ouais, ça se construit aussi petit à petit, mais c'est un processus qui prend des années. Et en fait, il faut juste être d'abord drivé par la passion avant d'être drivé par les résultats qui peuvent, ce que ça peut t'amener dans la vie après.
T'étais là avant entre guillemets ce gros boom des réseaux.
Ouais ouais, ben là on voit qu'il y a une énorme dynamique depuis un ou deux ans. Ben Clem qui court, c'en est l'exemple parfait, qui a vraiment explosé en un an sur les réseaux. Et moi je trouve ça trop cool que notre sport il devienne que ça touche de plus en plus de monde, que il y a des récits aussi qui dépassent juste le haut niveau, qu'il y a vraiment que le sport il s'élargisse, que ça touche des gens, parce que c'est un sport qui véhicule selon moi vraiment des valeurs qui peuvent être bénéfiques globalement à la société, que ce soit autour de la nature, que ce soit autour de la résilience, autour de, ouais, de plein de trucs qui sont positifs, et qu'il y ait des nouveaux visages, des nouvelles personnes comme Clem qui court, qui arrivent à porter ce message, à porter ce sport à un public qui est toujours plus large. Bah, je pense qu'en vrai, c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour ceux qui sont déjà dans le milieu, s'ils sont capables d'un petit peu de surfer sur le truc.
Nous, on vient de d'autres sports et tout ça, et je pense que ce qui fait la beauté du trail à la base, alors on le voit aussi maintenant, nous, dans le vélo, dans le gravel, c'est de, en fait, que des randoms comme nous, tu vois, des athlètes amateurs puissent prendre le départ avec des gars comme toi. Oui. Et peut-être toi, tu t'en rends pas compte parce que t'es un athlète professionnel, mais ce que tu réalises, ça nous impressionne tous. Même si on le dit pas et qu'aujourd'hui on a fait le deuil, on en a tous rêvé un jour. Et je trouve que justement, que les amateurs soient aussi mis en lumière et que ce soit fait dans le bon esprit et tout ça, je trouve ça aussi sympa et ça, c'est ça qui ramène du monde surtout.
Ben ouais, en tout cas, merci.
Mais est-ce que tu te rends compte de ce que le statut d'athlète professionnel peut représenter ou pas?
Bah, je sais pas, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu un petit peu cette démarche de haut niveau. Tous les gars avec qui je cours, tous les gars qui m'entourent, en fait, c'est des potes. Et du coup, j'ai pas forcément ce regard de regard d'enfant émerveillé. Et moi-même, quand j'étais petit, je me suis jamais dit je vais être professionnel, parce que je pensais que c'était inatteignable. Et j'ai juste fait ce que j'aimais. Et puis petit à petit, bah, ça m'a ouvert des portes.
On va passer une séquence, on va respirer un peu plus. Vous allez pouvoir, on va juste commenter. On a décidé dans cette émission, se dire que on allait réagir à des images qu'on a vues, tu vois, tranquillement dans le monde de la outdoor qui sont passées ce mois-ci. Et là, on va embarquer tranquillement en skeleton. Ça vous parle un peu, le skeleton?
Pas du tout.
Non? Tous les deux, non?
Discipline olympique, j'ai pas envie de faire.
Voilà. C'est une discipline olympique, c'est de la luge, tout simplement, le skeleton. Et c'est des gars qui s'envoient dans des pistes de luge et qui atteignent des vitesses
Mais tu l'as pas, celui-là.
Stratosphérique.
C'est quoi, stratosphérique? C'est pas quand le soleil il passe devant la lune?
Non, ça, c'est une éclipse.
Ok, j'ai confondu à chaque fois.
On va vous mettre les images en régie tout de suite. On part en Norvège, donc à Lillehammer. Donc Lillehammer, c'est un peu la piste maître, reine des pistes de skeleton. Donc elle a été inaugurée en 92, 94 pour les Jeux Olympiques de 94 là-bas. Et là, on est sur le petit casque de Federer. Alors je retiens son blase facile parce que ça ressemble à Federer. C'est un Italien qui a été 7e aux Jeux Olympiques, du coup là, Milan Cortina en skeleton. Et vous allez voir les images impressionnantes quand il s'élance. Déjà, il est collé à la glace. Tout est dans les bras.
Et juste, vous allez voir ce qui est impressionnant, c'est que juste sur l'écran, en fait, t'as mal au ventre, en fait. Tu sais, le sport extrême, le sport... C'est quand même fou. Toi, Constance, tu redescends l'Everest comme ça ou pas?
J'aimerais bien.
Ce serait rapide, hein?
Ah, ce serait beaucoup plus rapide, ouais.
Mais t'aimerais bien le faire, toi? Tu t'y mettrais?
Ça fait un peu peur, quand même. Mais...
Tu te rends compte que t'as pas de frein, là?
Ah ouais?
Ah non, t'as rien.
Mais en fait, la question que je me pose, c'est comment ils se départagent? Comment on est bon?
Comment...
C'est quoi être bon dans ce sport, en fait?
Être gros.
Comment tu progresses?
Il y a des vrais...
Mais surtout, tu tournes comment aussi, là? Bah, ils ont des petites manettes.
Tu n'as pas de frein, tu subis, en fait. Tu subis un peu, et en fait, tu prends les jets. Le moins de faux pas, tu peux te faire brûler par la glace, parce que tu es à 10 cm
de la
glace.
Et là, c'est combien de km/h?
Il monte à 138 km/h, là. 138.
Ok.
Et il est en lycra sur une piste de luge.
Aéro. Mais... Non, on a eu l'occasion de le faire du coup sur la piste de bobsleigh de la Plagne, ouais. Et sur le petit format, tu vois, on arrive à 80. En fait, tu gères rien, en fait.
Regardez, là on le voit utiliser ses.
Tu gères rien
pour réfléchir. Il a
des freins. Ah oui, voilà. Ouais,
juste ici qu'il utilise que maintenant pour
commencer. Ça t'arrête pas à 140 km/h, c'est debout de fer que tu freines.
Ouais. Oh my god.
Toi, Mathieu, t'as jamais fait?
Jamais fait, je pense que je ferai jamais.
Non, voilà. Alors s'envoyer sur des 170 km un jour, peut-être, c'est
chaud.
Moi,
j'ai fait le grand toboggan bleu à la piscine de Saint-Flour déjà.
Le mec.
Non, moi, j'aimerais bien tester.
Ouais, bah toi, tu viens du ski alpin, donc il y a ce sentiment de vitesse aussi. C'est de la glace aussi.
Oui, c'est vrai
aussi.
Qu'on va assez vite quand même en ski alpin.
Ouais, puis c'est de la glace, les pistes et tout. Enfin,
oui, c'est de la glace.
Mais en fils, déjà, ça commence à taper.
Si, oui, c'est de la glace.
Non, ça vous fait plus peur qu'autre chose, ça.
C'est pas que ça fait peur, mais enfin, j'ai l'impression que ça va quand même très très vite et que tu peux pas trop, t'as pas trop de moyens de te sécuriser, quoi.
Regardez ce qui s'est passé sur les Jeux Olympiques,
le bob français qui s'est retourné.
Ouais, les bobeurs,
les bobeurs, on les appelle.
Les bobeurs.
Les bobeurs français qui sont retournés. Tu l'as pas vu cette image? T'as pas suivi les?
Si j'ai.
Et bah cette image a été folle. En fait, ils sont retournés tout simplement en pleine course. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant.
Ils ont fini sur le dos. Hein.
En fait, ils ont dévalé comme ça toute la piste et ils sont arrivés en bas dans le. Bien sûr, ils ont été disqualifié. Mais
ouais, du coup, c'est quand même un peu
en
risqué.
Plus, en plus, ils ont même pas mis le chrono, quoi.
Disqualifié direct.
Disqualifié. Ils sont arrivés.
Je pense que Théo Détienne était dans le bob, c'est pour ça.
Arriver à DNF, une piste de bob de 30 secondes, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Et vous avez suivi un peu les jeux? Bah, le but, c'est de parler un peu de tout l'outdoor et tout, les sports d'hiver, les Jeux Olympiques. Vous avez regardé un peu quand même?
Un peu, mais pas trop, trop, j'avoue. Okay.
Et il y a Victor LP là, dans le chat, qui te demande que du coup, le trail, toi, au jeu, t'es plutôt pour ou plutôt contre?
Bon, ouais, je peux pas dire est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre. C'est sûr que si ça va rentrer, ça va être un sport différent de ce qu'on connaît actuellement. Mais je pense que le trail dans sa sphère des événements privés, il est déjà tellement installé. C'est pas parce qu'il va y avoir les jeux que ça va déformer l'UTMB, que les courses majeures comme Zegama, Marathon du Mont-Blanc, les grandes classiques Cerdinal vont perdre en attractivité. Il va peut-être y avoir un petit noyau dur d'athlètes de haut niveau qui vont se spécialiser dans un format olympique. Mais je pense que quand même globalement, ça va faire rayonner. Et moi, je suis plutôt pour quand même.
Ouais, tu kifferais. Tu kifferais y aller, une médaille olympique,
mec. Y aller, je pense que ce serait pas forcément dans mon champ de compétences, parce que ce sera pas un format ultra et c'est vraiment là-dedans que je me spécialise, mais je kifferais suivre en tout cas avec attention.
Constance, toi tu viens du ski alpin, qui est un sport purement olympique.
J'ai suivi quand même le ski alpin.
Ouais, mais non, mais est-ce que t'as rêvé surtout des jeux quand t'étais en fils et tout, quand t'étais jeune? Même...
Bah, je pense que je me suis jamais voilé la face.
Ouais, mais dans tous les sports, il y a forcément un moment où...
Non, mais c'est sûr, oui, t'as quand même... Tu t'espères toujours, dans un coin de ta tête, peut-être arriver à très haut niveau. Enfin, moi, je skiais notamment avec Clément Noël, qui vient
de Vosges. Un petit jeune.
On a fait quelques championnats de France ensemble. Je skie aussi énormément avec Thibaut Favreau, qui était dans mon club. Donc voilà, j'étais quand même tout proche du très très haut niveau. À un moment, il aurait fallu bouger dans les Alpes pour
comme
aller. Bah, c'est ça en fait. Mais je veux dire, honnêtement, faut être honnête. Quand tu viens des Alpes et que tu as la possibilité de skier tous les après-midi, c'est pas la même chose que quand tu dois aller faire 4, 5, 6 heures de route. Parce que quand on faisait des compètes, nous, enfin, tu rentrais le dimanche soir à 1h, 2h du matin. Le lundi matin, 8h, t'étais en retour en cours.
T'as plus un truc de c'est tous les week-ends, quoi. C'est pas comme le trail où toi, Mathieu, tu choisis tes courses et t'as pas besoin d'être tous les week-ends en déplacement sur une course.
Bah, c'était un peu plus que tous les week-ends, quand même. Parce que
plus que ça.
Ben, moi, je loupais 2-3 mois de cours par an.
Ah ouais?
Ouais, ouais.
Ah d'accord.
Et jusqu'à quel âge?
Jusqu'à mes 18 ans. Okay. Enfin, jusqu'au bac, quoi.
Bah, c'est bien ce qu'on va. On va passer un peu sur ton focus à toi, Constance. On a pas mal encore de choses à voir. L'émission avance et on a plein de questions à te poser. On a déjà une image à te montrer demain. C'est ton premier Grand Rex dans la grande salle, on l'a déjà dit.
Premier Grand Rex dans la grande salle.
C'est combien il y a de place ou pas? 26 ans, c'est une dinguerie.
2200 ou 300. 2200, je crois, normalement.
Ah, moi, j'ai marqué 2702. Mais...
Ah ouais?
Bah, c'est toi qui compte les toilettes.
peut-être qu'ils comptent les trains portants. Enfin, les places encore en plus.
Peut-être
2200 normalement.
2200?
Ouais.
Il y a combien de places vendues pour le moment?
On est à peu près 1500.
Ok, donc il reste presque 1000 places encore. Donc dans le chat, on va remettre le lien encore.
N'hésitez pas à remplir. Comme on l'a dit, nous on y sera. On aura l'occasion d'échanger et de voir ce superbe film. Je sais pas, je pense que le mieux c'est que peut-être on se mette la bande-annonce,
okay.
Et après on rediscute un peu de pourquoi, de comment et on se remet de nos émotions, parce que je l'ai déjà vu, les images sont folles.
J'ai trop mal. Je sens que ça va être drôle.
Bah ouais, c'est la première
fois. Jamais je reviendrai ici. Explosé de fatigue.
Ça va le faire, t'inquiète.
Du coup, en plus des places, la bande-annonce est dans la description si vous voulez la revoir.
En fait, je vais décaler mon train.
Ah, voilà. Ça t'a donné envie.
Non, mais il est vraiment bien, le film. Hein,
tu m'as convaincu, là.
Non, mais en vrai, la bande-annonce lourd, ça donne envie de voir.
Les frissons. Enfin, au-delà de la... Trop de questions, parce que dans pourquoi t'as fait l'Everest, au-delà de l'exploit sportif d'être la plus jeune française, je veux dire, à avoir fait du coup l'Everest... Il y a tout un circuit et une histoire autour de ce sommet. C'est du coup ton chapitre 3 du documentaire. les images sont incroyables, les émotions que tu partages avec Hugo aussi, ton vidéaste. Waouh, par où commencer? Déjà, pourquoi tu fais l'Everest?
Eh ben, je fais l'Everest dans le cadre de mon projet du Challenge Essai de Sommet, donc en hommage à mon papa, que j'ai perdu à 9 ans d'un cancer du pancréas. Et c'est mon quatrième des 7 sommets, il m'en reste encore 3. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais pourquoi ne pas faire l'Everest en dernier? Et en fait, je savais que c'était ma dernière année pour tenter d'être la plus jeune française à avoir gravi l'Everest et que ça allait quand même pouvoir faire parler de mon projet, faire parler de mon association qui accompagne des enfants qui ont un parent atteint de cancer ou qui ont perdu un parent. Et voilà, pouvoir imaginer des plus grandes choses pour la suite, et ça a été le cas. Après, je l'ai pas trop annoncé avant de tenter l'Everest parce que j'avais pas envie de me rajouter une pression supplémentaire. Et je savais pas trop non plus à quel point ça allait déclencher un engouement. Je m'attendais pas non plus à ce que ça soit à ce point-là. Mais oui, le projet initial, c'est en hommage à mon papa et parce qu'il a souhaiter que ces cendres soient dispersées sur les
sept. Ce que je trouve trop beau, c'est qu'à chaque fois, dans la construction du projet, c'est rendre hommage à ton père, mais c'est aussi pour donner encore plus d'ampleur et de visibilité à l'association 7 Sommets contre la maladie qui est derrière. Et en fait, les deux projets sont intimement liés, quoi, maintenant.
Bah, c'est ça, en fait. Du coup, le challenge, c'est les 7 Sommets, mais mon asso, elle s'appelle 7 Sommets contre la maladie. Aussi, dans l'idée de faire ce suivi-là, tous les enfants sont là pour découvrir mes films. C'est aussi pour ça qu'on les fait avec Hugo. On avait une cinquantaine d'enfants sur Strasbourg, sur Lyon aussi. Et ce sera pareil demain au Grand Rex, parce que l'objectif, c'est qu'ils puissent vraiment voir les images et vivre ce que j'ai vécu avec eux, quoi.
C'est inspiré, en fait, justement. Ouais. Enfin, le but de l'association, concrètement, si tu pouvais l'expliquer et tout.
Ouais, alors le but de l'asso, il y en a plein, mais le premier objectif, c'est pour les enfants de se rendre compte qu'ils sont pas seuls dans cette situation, parce que moi j'étais finique à l'époque et je connaissais aucun autre enfant qui était dans la même situation que moi, et c'est vrai que ça m'a un petit peu manqué, enfin je me suis sentie un petit peu seule. Après, mon père m'avait vraiment très bien préparée à ce que j'allais vivre, parce qu'il savait qu'il allait mourir et il a réussi à me le dire avant de partir. Donc j'ai eu beaucoup échangé avec lui, donc j'étais prête, on va dire, même si j'avais que 9 ans. Et c'est vrai que l'objectif là aujourd'hui, c'est d'accompagner. Alors c'est globalement l'enfant, mais finalement c'est la famille de manière générale, parce que tu vois, là j'avais au téléphone une maman, c'était samedi, son mari est atteint d'un cancer du pancréas qui est incurable, il est métastasé, elle a une petite fille de 6 ans, et en fait moi j'échange énormément avec le parent malade, avec le parent restant, sur la fin de vie, parce que nous on accompagne les enfants qui ont des parents atteints de cancer grave, et on va l'accompagner l'après. Je vais essayer de pas pleurer, mais aujourd'hui on avait l'enterrement d'une maman qui est décédée samedi aussi. Donc voilà, c'est pas facile parce qu'on est quand même constamment remis dans le décès, dans le cancer. Mais c'est vrai que c'est l'objectif de l'asso, c'est l'objectif de ce que je fais. Ouais. Après, j'essaye sur les réseaux d'être très légère sur tout ça.
Ouais, et je trouve très, justement, quand on voit tes réseaux, tu vas pas justement chercher trop le dramatique ou trop les choses. Non, t'es quelqu'un qui apparaît plutôt solaire, en fait, et c'est marrant parce que je trouve ça, en tout cas pour ma part, impressionnant de voir quelqu'un qui côtoie autant, aussi souvent la mort d'aussi proche, et de réussir à garder la face pour inspirer justement tous ces enfants qui ont besoin d'avoir une figure, quoi.
Là, entre décembre et janvier, on a perdu 4 parents.
Ouais, et même à gérer pour toi, parce que toi, donc, tu donnes beaucoup aux autres. Toi, ça doit te faire aussi revivre ce que tu as vécu.
Oui, je revis forcément tout le temps ce que j'ai vécu personnellement. Après, en fait, c'est marrant, c'est ce qu'on m'a posé cette question à cet après-midi. Et on me disait, mais en fait, comment tu vivrais si ton père était encore là? Et en fait, je me dis, son cancer et sa mort, elle n'a pas servi à rien. Et que... Enfin, faire tout ça, c'est continuer à le faire vivre, en fait. Donc c'est pour ça que finalement, pour moi, c'est hyper important tout ce qu'on fait, tout ce qu'on construit. Et je suis pas toute seule, on est 500 dans l'asso, donc c'est quand même une vraiment grosse structure. Et je fais pas tout, et si on grandit autant, c'est pas que grâce à moi. Enfin, la visibilité, évidemment, elle joue énormément, mais il y a pas que ça non plus. Et après, c'est vrai que sur les réseaux, j'ai pas non plus envie d'être trop dans le dramatique tout le temps. Et j'ai, enfin, mais c'est vrai que mon quotidien, il est beaucoup tourné autour de ça.
Ça sent quand on parle même, tu vois, c'est fou.
Tu vois, la maman qui est décédée, enfin, dont l'enterrement a été aujourd'hui, c'était une maman dont on était vraiment très proche. Enfin, je veux dire, on l'a vue très souvent, on a beaucoup accompagné ses enfants, donc c'est pas évident, mais c'est pas ce que j'ai envie de montrer en priorité sur les réseaux.
Ouais. Tu montres du coup le côté rayonnant, solaire et l'envie de faire des choses et de faire des projets.
Mmh. Ouais.
Et d'ailleurs, t'en es où dans ton projet des 7 sommets t'en as fait combien et,
Ouais.
Et tu as commencé en 2021, c'est ça?
J'ai commencé en 2021, je vais pas dire par hasard, mais quand j'ai découvert la lettre de mon père, c'était en mai 2021 et je partais en Tanzanie en voyage humanitaire. Et j'étais à 1 heure du Kilimandjaro, qui était le premier des 7 sommets. Et du coup, l'aventure, elle a commencé comme ça. Et je démarrais du coup mon alternance chez Mwetensi dans le groupe LVMH en septembre. Et je me suis dit, vas-y, je vais tenter cette ascension. Et puis après, je vais reprendre le cours de ma vie. Et en fait, finalement, je me suis embarquée dans l'aventure et ça s'est pas arrêté. Et c'est l'aventure qui m'a pris en entier. Et maintenant, je ne fais plus que ça, quoi.
Du coup, aujourd'hui, t'es devenue alpiniste.
C'est souvent ce qu'on me dit, mais j'ai pas envie de me... Enfin, je m'estime pas alpiniste parce que j'estime que j'ai pas suffisamment de compétences techniques et que j'ai toujours besoin d'être accompagnée par des professionnels. Après, c'est vrai que c'est un objectif de progresser dans tout cet univers de la montagne. D'ailleurs, mes sponsors vont m'accompagner, notamment Mie, autour de ça. Je suis himalayiste, ça c'est sûr, ayant gravi l'Everest. Et je suis semi-alpiniste, on va dire, mais je préfère rester humble sur les termes.
Il y a beaucoup de soutien dans le chat, c'est trop des amours. En vrai, ils sont trop mignons. Du coup, aujourd'hui, quand tu définis, genre, en soirée, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
J'ai un petit peu couteau suisse, on va dire.
Et tu apprends tout le temps, en fait?
Oui, j'apprends, j'adore apprendre, j'adore tester des nouveaux sports, j'adore découvrir, me lancer des nouveaux défis, des défis avec d'autres personnalités, de plein d'univers différents. Enfin, voilà, je suis curieuse en fait, j'ai envie de vivre pleinement, j'ai envie de découvrir le monde et j'ai envie de faire les choses bien. Mais le trail, c'est un des sports qui m'intéresse le plus.
Ah ouais?
Ouais, j'adore.
C'est marrant, mais il y a vraiment
j'adore
ce truc croisé.
C'est en fait trail et montagne.
Mais vraiment, j'ai découvert, en fait, au fur et à mesure, dans mes entraînements, j'ai commencé à intégrer du trail dedans pour me préparer à mes expéditions. Et en fait, je suis vraiment tombée les deux pieds dedans et maintenant, j'adore ça, quoi.
Tu l'expliques comment, syndrome du « on touche au trail, on n'arrive plus à s'en sortir après ». Parce que nous, ça nous est arrivé pareil, on venait du vélo et on a découvert le trail. Le trail est... Derrière, t'arrives plus à décrocher, quoi. C'est fou.
Ouais, c'est clair.
Le trail, c'est le sport le plus stylé de l'univers.
Voilà. Je suis d'accord.
C'est de la propagande.
Non, mais je sais pas, courir dehors, et c'est vraiment sentir aussi le goût de l'effort en même temps, la nature, et c'est tellement des choses qui sont simples, mais qui satisfassent.
Quand tu l'as pas non plus, mot contre triple. Comment tu te prépares à monter l'Everest? C'est une prépa physique et de sportif de haut niveau, non?
Oui, quand même. Après, c'est ce que je dis souvent dans la préparation de l'Everest, et d'ailleurs, il y a pas mal de sujets là en ce moment autour de l'Everest. C'est vraiment les expéditions précédentes que tu as pu faire qui sont hyper importantes, et surtout de savoir si tu vas supporter l'altitude et que tu n'auras pas de mal aigu des montagnes, le MAM. En fait, il y a beaucoup de gens, malgré toutes les compétences physiques et tout le sport qu'ils peuvent faire, qui n'arriveront jamais au sommet du Mont Blanc parce que, en fait, ils sont très malades.
J'ai vomi en montagne à 3000 mètres au Maroc dans l'Atlas.
Et ça n'a aucun rapport avec les aptitudes physiques.
Comment tu sais ça? Du coup, tu fais un Mont Blanc pour voir si tu réussis à l'altitude. Mais quand t'es monté au Kilimandjaro, toi, tu savais pas si à 6000 mètres tu tenais?
Ah bah non, mais c'est pour ça que je savais pas si j'allais réussir le Kilimandjaro et que j'étais même pas partie dans ma tête en me disant je vais réussir le Kili.
Ah, t'y allais en mode. T'avais vu du coup le message de ton père
et
La lettre, et tu t'es dit ok, là, je suis au pied du Kili, j'y vais.
Ouais.
C'est facile. Non, c'est fou de l'insouciance, quoi. L'envie de rendre hommage.
Ouais, je suis souvent un peu insouciante. c'est vraiment fait comme ça. Enfin, j'avais même pas une veste de ski. Je suis arrivée au sommet du Kili, j'avais même pas une veste de ski.
Mais devait
vraiment la préparation. Ah oui, j'ai eu froid.
Débardeur.
j'ai eu vraiment froid. Mais en fait, quand j'ai vu mon état par rapport à mes sherpas, par rapport à mes guides et tout, je me suis dit mais je suis pas normale, quoi. J'étais
Du coup, t'as fait des études, enfin des tests après, et t'as une prédisposition physique pour la haute montagne.
Là, même à 7100 au camp 3 de l'Everest, on était normal. Enfin, moi, j'étais vraiment genre.
C'est vraiment un gap au-dessus l'Everest, par contre, en termes de niveau technique et aussi en termes de résistance à l'altitude.
Ah bah, résistance à l'altitude, oui, c'est sûr.
Bravo Charlotte,
que...
Pas qu'un physique.
Non, mais attendez, ce mec, c'est un puriste. Qu'est-ce que tu fais là sur... On voit une vidéo de toi là avec un masque. C'est quoi ce masque, c'est ça?
Ouais, l'équipement.
Oui, bah là, c'est du coup le masque à oxygène, puisque donc passer le camp 3. Alors en général, il y en a pas mal qui mettent l'oxygène dès le camp 3, même en dessous du camp 3. Nous, on a fait notre première nuit à camp 3, donc 7000, entre 7100 et 7200 sans ox, qui s'est plutôt bien passé. Et j'aurais bien aimé continuer encore un petit peu sans ox pour voir physiquement jusqu'à où j'étais capable d'aller. Malheureusement, mon Sherpa a été malade. Enfin, quand on s'est réveillé dans la nuit à 2h, il n'était pas super bien, il a vomi. Et puis, on a aussi appris qu'au même moment, on avait deux personnes de notre équipe, donc un client et son Sherpa, qui était un Sherpa très fin, deux personnes très proches de nous, qui étaient portées disparues sur le Lhotse.
Un autre sommet, du coup.
Autre sommet qui est juste à côté de l'Everest. Et du coup, je me suis dit, je vais pas tenter de continuer sans oxygène.
Ça prend combien de temps à monter l'Everest?
Ça prend 40 jours. C'est donc long. C'est vraiment des longues expéditions et par contre quand tu rentres t'as plus de muscles, t'as plus rien.
Mais c'est pas 40 jours à grimper, t'as tout un temps justement, comment ça se passe?
T'arrives au camp de base.
Tu passes combien de temps au camp de base?
Déjà tu prends 10 jours pour arriver jusqu'au camp de base.
Ok, c'est une marche d'approche.
Ouais, la marche d'approche, le trek jusqu'au camp de base, une dizaine de jours. Ensuite tu arrives au camp de base, tu vas te poser 2-3 jours, tu vas faire une première acclimatation. Donc là on est allé faire le Loubouché. Là j'étais ultra malade, donc ça s'est pas super bien passé, mais au final on a réussi à atteindre le sommet, puis en redescendant, mais là j'étais vraiment, je pense que j'avais la plus grosse grippe angine de toute ma vie.
Ah bah faut se couvrir là-haut.
Non mais il y a beaucoup de gens qui sont malades, et d'ailleurs
c'est déjà quoi, c'est les vivants, je pense que c'est les défenses immunitaires qui baissent un peu forcément parce que
Et alors il y a le Khumbu Cove, c'est une toux liée à l'Everest, enfin à l'air à l'Everest, et du coup tout le monde toussait, mais j'avais l'impression que ses poumons allaient sortir tellement il est...
C'est pas à cause des soirées ça?
Non, c'est pas à cause des soirées.
Parce que Mathieu, je sais pas si tu sais, t'as des potes qui sont déjà allés là-bas sur des camps de base et tout?
Non, pas trop. Globalement, c'est les gages fréquentes, ça reste quand même pas mal dans
Gravité de Courmayeur, quoi.
Ouais, mais en vrai, il y a tellement de trucs à faire. Dans
mais c'est vrai, il y a énormément de trucs à faire. Moi, j'aurais jamais fait l'Everest si j'avais pas eu ce projet-là, tu vois.
Oui, forcément. Oui. Puis c'est un vrai, aussi une vraie orga d'aller chercher des sponsors et tout. Ah non, mais super cher, une expédition. Du coup, tu fais 40 jours. En fait, t'as une vie normale. Mais normale, c'est-à-dire que tu manges quoi? Tu fais la fête. Donc, t'es au camp de base?
Oui.
Combien de mètres?
5000, un peu plus de 5000 mètres.
Ok, ouais, le camp de base, déjà, moi, je meurs étouffé en deux jours. Et là-bas, tu vis pendant...
Mais d'ailleurs, franchement, genre, même au camp de base, donc il y avait des gens qui faisaient le trek du camp de base, qui arrivaient au camp de base, qui restaient genre un ou deux jours un peu là-bas. On a quand même, je crois, 4 personnes sur une dizaine de personnes qui ont tenté le trek, qui sont reparties en hélico parce que, mal aigu des montagnes, ils étaient sous ox et tout.
Ah, donc un marche d'approche.
Au camp de base.
Ah mais ouais, d'accord.
Oui, okay. Mais vraiment c'est vénère. Enfin genre.
Et comment ils se passent, comment préparés, la vie?
Ah non, ils étaient pas très préparés, mais je pense qu'ils s'attendaient pas à être aussi mal. Mais vraiment, je me souviens de deux femmes qui étaient venues. Déjà quand elles sont arrivées, je les ai vues blanches et tout. Je me suis dit oula, elles ont pas l'air en forme du tout. Elles ont pas passé une nuit quoi au camp de base.
Waouh.
Alors que nous, on en passe 3 semaines.
Ouais, du coup, pendant 3 semaines, comment tu vis? C'est quoi?
Qu'est-ce que tu manges?
T'as des salles communes pour déjeuner?
T'as ta tente messe. Alors après, ça dépend des équipes. Nous, on avait une petite équipe. Enfin, je veux dire, c'était des locaux. Enfin, c'était une équipe népalaise et tout. Après, t'as des très, très grosses agences où là, c'est à l'international et tout. Nous, on était vraiment avec une petite team. C'était trop cool. Et ouais, t'as ta tente messe où tu manges, enfin, petit déj, repas de midi, repas du soir.
C'est quoi la nourriture?
Tu manges pas mal népalais, du coup, dalbat. Ça c'est vraiment la nourriture type number one. Eux ils mangent dalbat toute la journée, enfin ils mangent que ça, midi soir. Ils mangent pas à midi en général, enfin matin et soir pardon.
Ils mangent pas le midi?
Souvent ils font 2 repas, okay. Et ils vont faire dalbat.
Et c'est culturel?
Ouais, c'est okay. Plutôt culturel. Et sinon après tu manges plein d'autres trucs, hein. Enfin,
donc c'est pas du sous vide quoi? Ah, c'est pas lyophilisé?
Lyophilisé ça arrive à partir du camp 3, du coup à 7000 tu manges lyophilisé camp 3 et camp 4.
Ok, pendant combien de jours?
Du coup quasiment pas de jours parce que camp 3 tu dors une seule nuit, okay. Et camp 4 tu dors même pas au camp 4, hein.
Okay. Tu fais quoi? Tu fais 2 heures et tu remontes?
Donc on est parti à 2h du matin du camp 3, on est arrivé vers 14-15h au camp 4. Donc là, on atteint les plus de 8000 mètres. Et ensuite, tu vas te reposer 3-4 heures. On est resté un petit peu plus longtemps au final au camp 4 parce que la météo n'était pas dingue. On est parti, je crois, vers 22-23 heures. Là, bah, tu passes la nuit à monter jusqu'au sommet. Quoi.
Et niveau hygiène sur place, genre pour prendre des douches, se brosser les dents.
Parce qu'on a quand même demandé à ton vidéaste, à Hugo Lorenz, là, on dit bonjour, donner des infos. Il s'est trompé de sac, non ? Pour aller aux toilettes ? Y a pas une histoire comme ça ?
Ah si si, oui non mais nous de toute façon tous les trucs où
fallait pas. Vous avez
c'est
fait...
quoi c'est quoi cette histoire ?
Ouais bah en fait du coup à l'Everest donc au camp de base t'as des toilettes mais ouais. Vous les verrez demain, ils sont très très mythiques. C'est très très drôle, les toilettes vraiment c'est hilarant. Enfin c'est un gros saut en gros, on va tous au même endroit donc tu vois bien
ouais.
Le truc de tout le monde quoi. C'est...
Bah, j'ai pas
appétissant là.
Heureusement je
bon
vois pas bien.
Qui mange devant l'émission.
Mathieu tu vois très bien toi, tu nous as raconté comment tu faisais pipi sur les courses tout à l'heure.
Avec compétences développées avec des années de pratique mais en effet, mais on racontera pas ça ici.
Ouais, en gros, ils pissent en marchant, mais bon, vas-y.
Ouais. Et ensuite, en camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, on fait nos besoins dans un sachet. Sauf que le sachet, bref, c'était un peu technique et tout. Et moi, je l'ai suivi en plus, mais on a fait dans le mauvais sachet. Mais du coup, le sachet était hyper petit, quoi. Ouais. Genre vraiment très petit. Et du coup, on s'est dit, mais comment c'est possible de...
Ah, fallait pas prendre un tacos là, quoi. Tu manges pas épicé sur le moment.
De rentrer dans ce format-là. Et en fait, après, on a réalisé que juste, c'était pas le bon sachet.
Ok, bon. Et là, il y a eu embrouille. Il y a eu Erja, comme on dit.
Non, il n'y a pas eu embrouille. Mais en fait, moi, pourquoi je suis ce que Hugo me dit aussi, enfin, j'aurais pu juste regarder la notice et lire correctement comment ça se passait.
Hugo, tu lui fais
du coup, au final, j'ai même pas réussi parce que c'était trop stressant.
Est-ce que l'Everest, c'est quelque chose qui financièrement est accessible ou à peu près combien il faut si moi, demain, je vais aller me faire une expé là-bas ?
Non, ça coûte cher.
Ah ouais.
Ouais, ça coûte cher. Là, globalement, c'est entre... Bon, tout dépend parce que t'as des expéditions, ça peut monter jusqu'à 400 000 euros par personne.
Waouh.
Wow. Mais ça,
il touche le hammam, là.
Pour qu'on explique, il y a des agences de voyage carrément qui emmènent des gens sur l'Everest. Donc là, c'est des agences de luxe, donc c'est pas pareil, non ?
Ouais. Après, en fait, c'est plus au camp de base où t'as des niveaux de... T'as des niveaux de luxe entre guillemets différents.
Des étoiles.
Nous c'était, c'est pas des étoiles mais je veux dire t'as des agences où t'as une tente, enfin où il y a du chauffage dans la tente, où t'as de l'électricité, où t'as tes toilettes, enfin je veux dire c'est autre
petit
chose.
Jacuzzi, massage des pieds.
Ouais, quand même pas, mais en tout cas t'as quand même des chambres au camp de base qui sont plus sympas que d'autres. Nous c'était très très simple, mais c'était très bien parce qu'on voulait vivre, notre Everest. À la dure quand même. Okay. Mais par contre après sur les camps supérieurs là c'est pour tout le monde pareil. Mais oui nous c'était plus dans les 50-60 000 euros par personne. Ce qui est déjà quand même très
cher. 400 000 euros toi avec ta chaîne YouTube pour aller sur les
on y va ensemble.
J'ai pas trop.
Non mais après d'un côté tu vois je pense que c'est quand même vachement bien que ce soit cher parce que ça dissuade déjà.
Oui. C'est vrai que toi t'es assez engagé dans l'écologie Mathieu, c'est vrai que aussi si tout le monde y va comme ça sans vraiment
avoir les compétences, tu as des gens qui
prennent conscience et tout de ce que ça représente, ça fout le bazar là-haut, non ?
C'est sûr que les voyages transcontinentaux ou les longs courriers, c'est vraiment au niveau individuel, c'est ce qui a vraiment un gros impact sur son empreinte carbone perso. Et par contre, si c'est des projets qui permettent de motiver des millions de personnes, s'il y a des enjeux qui dépassent tout ça, ça peut aussi avoir des impacts plus positifs. Ouais. Mais moi, dans ma démarche perso, en tant qu'athlète, là, ça fait 3-4 ans que j'ai pas pris l'avion parce que en fait, je me dis, on a tellement un terrain de jeu qui est fou chez nous, on a tellement des courses qui sont belles à notre portée, et moi, j'ai la chance de pouvoir aller faire l'UTMB, la plus grande course du monde, à une heure de chez moi. Donc, je suis un privilégié, mais du coup, j'en profite et je me dis, j'ai pas besoin d'aller faire d'autres trucs à l'autre bout du monde tant que je suis satisfait là-dedans.
Et d'ailleurs, toi, Constance, t'as retrouvé le plaisir, tu dis, t'as découvert le trail et le plaisir de courir dans les Alpes en France et de te régaler dans nos montagnes.
Ah, mais moi, j'adore. Mais moi, je cours tout le temps dans les Vosges à une demi-heure de
On
chez moi.
On a dit dans les montagnes.
tu l'as vu celle-là, elle est magnifique. Elle
vient laisse-moi jamais. Mes montagnes, c'est merveilleux. Les Vosges, venez dans les Vosges.
On s'appelle Stroll, notre grand-mère est strasbourgeoise.
Et je serai sur l'UTMB Alsace d'ailleurs.
Ah, magnifique.
Ouais.
Pour défendre ta région.
Grand ballon, non
Aubernais.
Aubernais.
il grand ballon parce qu'il connaît.
C'est parce que je viens du vélo et que tu vois Thibaut Pinot quoi.
C'est tout, c'est sa seule rêve là-bas.
j'ai une rêve d'une personnalité de vos régions. Toi c'est Thibaut Pinot et toi c'est Georges Pompidou. Donc,
non mais nous on a Romain Bardet. On a Romain Bardet chez nous.
Bah oui. Après il est de Clermont, il est pas du Cantal. Hein.
Non, il a grandi à Brioude dans la Haute-Loire. Mais sa grand-mère était du Cantal.
Ça se rattache à des grand-mères aérées.
On a une dernière petite séquence. C'est la séquence des enveloppes. On a travaillé un petit peu, effectivement. Antoine va vous montrer les enveloppes. Il y en a trois. Il y en a une orange, une verte et une rouge. Un piment, deux piments, trois piments. Donc c'est au niveau de piquance de la question. Mathieu, c'est toi qui choisis la question que va devoir tirer et lire Constance. Et dans le chat, vous pouvez dire celle que vous voulez voir. Donc, vous voulez voir la 3 piments, la 2 piments ou la 1 piment? C'est la première émission, tu peux être gentil.
Au début, je me suis dit, ouais, je vais être gentil, mais en fait, elle a l'air tellement coriace et cette sortie de situation assez complexe et que je pense qu'elle va pouvoir affronter les 3 piments.
Oh non!
Constance, on va te tendre. Oh là, les 3 piments là!
Ah bah oui,
mais non, mais toi, t'as un assassin toi!
Et le chat, ils ont même pas eu le temps, ils ont même pas eu le temps de venir. Attends, tu la lis d'abord dans ta tête.
Je la lis d'abord dans ma tête, ok.
Et après, à haute voix. On voit la réaction.
My god. Alors. Ah ouais, ok.
Ok.
Oui, ouais, je me rappelle. En Alaska, tu as une confrontation avec un guide. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé?
Merci, merci Hugo pour les petites références.
Pas qu'un guide d'ailleurs. Enfin, au final, c'était toute l'équipe. Le premier guide que j'avais, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais il me détestait. Il faisait que de me crier dessus. Et ça s'est très, 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 très mal passé entre nous. Et donc j'ai demandé au guide principal si on pouvait échanger et que j'ai un autre guide parce qu'en fait il comprenait pas que en étant petite, enfin parce que quand t'es au Denali en Alaska tu tires ta poulka.
Ouais.
Et du coup, tu dois tenir la corde.
C'est
une luge avec toutes tes affaires dedans. Tu dois avoir la corde tendue, mais la corde, enfin la personne qui est plus loin de toi, elle est quand même vachement loin derrière toi, et que moi, je reste, enfin, je suis pas en format de poche, mais je veux dire, je suis pas non plus ultra costaud. Mmh. Et en fait, c'était hyper difficile quand tu descendais d'avoir ta poulka qui te tombe dessus en même temps. Quand lui, il est devant, tu dois tirer sa poulka. Enfin bref, et du coup, ça a donné des scènes de carnage absolu. Bref, on s'est clairement bien, bien fort engueulé. Et puis après, bon, le pompon sur la Garonne, c'est quand ils nous ont...
pompon sur la Garonne.
Ils nous ont annoncé au camp 4 qu'en fait, on allait pas tenter l'ascension vers le sommet du Denali. Et ça s'est passé de manière assez... j'ai pas très bien aimé la manière dont ça a été fait. Okay. Ils nous ont posé la question, est-ce que vous souhaitez tenter l'ascension ou pas, sachant qu'on voyait d'autres équipes qui étaient en train de partir. Et en fait, on était 5 clients, et donc Hugo et moi. Et moi, je me suis dit, les 3 autres, ils vont forcément dire oui, c'est pas possible que tu dises non. Et en fait, ils ont dit non, ils voulaient redescendre. Et du coup, moi, j'ai été vraiment ultra, ultra, ultra énervée. Enfin, j'ai dit, je ne bougerai pas d'ici. Enfin, vraiment, je suis sortie de mes gonds complètement. Et ça a fait que, enfin, voilà, la fin de l'expédition ne s'est pas très très bien passée, quoi.
Mais du coup, il restait que la descente. Bah, il fallait redescendre, quoi.
Bah là, il fallait tout redescendre. On était au camp 4. Oh, et en fait, moi, j'ai dit, je veux absolument que quelqu'un... Enfin, je veux tenter l'ascension, en fait.
Okay.
Juste, je veux essayer d'aller plus loin parce qu'on se sentait super bien avec Hugo. Et quand tu vois d'autres qui sont en train de monter, toi, t'es obligé de redescendre... Voilà, ça c'est le côté très compétitrice et Hugo a dû vachement me calmer à ce moment-là.
Ouais.
Il a dû vraiment
ça va être compliqué de gérer les conflits humains aussi parce que tu restes pendant des jours avec des gens que tu connais pas forcément depuis longtemps, quoi.
Ouais, mais d'ailleurs, ça a été un des gros sujets pour la suite, enfin pour les prochaines expéditions et notamment la deuxième ascension du Denali où j'ai dit non, mais Hugo, là on part que tous les deux parce que avec d'autres. On risque encore d'échouer, quoi.
Attention au caractère de Constance.
Ouais, j'ai quand même eu un caractère bien trempé.
Là, je le sens, j'ai envie de m'excuser. Là, on va faire un jeu. J'espère que tu gagnes, sinon on va se faire découper, nous.
Ouais. On va passer à la séquence d'après. Avant d'accueillir le troisième invité et de faire la fin de l'émission, on a des belles choses à faire encore en fin d'émission. Et on a créé un jeu. Ça s'appelle Ça existe vraiment. Donc on a trois images de sport faites par l'IA, des sports insolites. Et dans ces trois sports à l'image, il n'y en a qu'un seul. Il y a qu'un seul qui est vrai. Grégoire, tu joues aussi? Tu connais pas le sport?
Je cours, André.
Vous jouez et je vous laisse débattre.
On va débattre.
On peut vous montrer ces sports. Vous allez voir, c'est des sports, ils ont des noms chelous. Donc, on commence par la gauche. À gauche, on a le Jugger Basel. Je sais même pas le dire. Donc, vous voyez, c'est une sorte de sport médiéval mis à la goût du jour avec des fausses massues et une épée. Donc voilà, on se tape dessus et on doit marquer le truc dans un camp.
Okay.
Le deuxième sport,
Il s'appelle le waterball. Donc le waterball, c'est du basket dans l'eau en fait, avec des plateformes. Et on se déplace, on peut monter sur les plateformes et c'est des petits trampos et sauter dessus et dunker à la Kobe Bryant dans ton époque basket, Grégoire.
Ouais, je suis un peu fan de NBA en ce moment, ça me va.
Et le troisième, c'est le ten golf. C'est un mix entre le tennis et le golf, comme son nom l'indique. Et le but, c'est avec via une raquette de ça joue à deux du coup. Et le but, c'est de mettre dans le camp adverse la balle le plus proche du centre.
Il y en a combien qui existent?
Un seul.
Mais moi, j'irais waterball.
Waterball, donc le basket dans l'eau.
Et pourquoi waterball?
Moi, je pense que c'est le golf tennis.
Je suis plus team golf tennis aussi.
Ouais,
parce
j'avoue,
que
j'hésite entre les deux, mais.
Ouais, attends, mais t'es pas influencé, peut-être c'est le waterball. Parce que le waterball, je me dis, ça peut être possible. Si
mais je garde waterball.
Ouais, c'est des trampos, peut-être ils sautent de plateforme en plateforme et tout.
Je sais qu'il y a le frisbee golf qui existe, je me dis, le tennis golf, ça va
exister aussi. Ouais, le foot golf aussi, en vrai, il y a tellement de sport golf. On est 2-1. Et il n'y a pas de vainqueur. Ce qui te fait de moi le vainqueur.
Quoi?
Le sport qui existait, c'est le Jürger Basel.
Mais tu l'as trop
c'est
mal expliqué aussi.
Mais
je sais pas ce que
mais
c'est.
Moi, j'ai rien compris.
J'ai eu cette fiche là. J'ai rien.
Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible.
C'est un mélange entre. Ouais, mais je vous jure.
Mais c'est quoi le but du coup?
C'est un mélange de l'escrime, un sport de combat avec des armes du coup en mousse. Et donc, c'est vraiment. Regardez les images. C'est un sport avec des stratégies d'équipe.
Oula
et le but est d'aller du coup mettre. C'est comme du rugby quoi, d'aller mettre la balle qui est portée sous forme de crâne ou je sais pas quoi dans le camp adverse.
Mais attends, mais la balle elle est au bout du fil?
Et en fait, il y a un seul joueur, le Quick, qui peut aller mettre la balle dans le camp adverse. Et vous voyez comment ça joue. Et il y a même un club à Paris, si vous voulez aller essayer. Je vous jure, c'est incroyable.
C'est incroyable, ah ouais.
Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec
nous.
Il est temps pour toi de quitter l'émission. Merci d'avoir répondu aux questions, d'avoir joué le jeu. T'es officiellement le premier athlète invité de cette émission. Donc, trop content. Merci beaucoup.
C'était la première série. Non, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Et puis, longue vie à Basecamp.
Longue vie à Basecamp et suivez la chaîne YouTube Mathieu Delpeche, suivez aussi le trail qu'on aime, le podcast, et puis suivez aussi la saison puisque tu vas tout défoncer cette année quoi.
Bah, trop bien, merci.
Bisous frérot.
Salut les gars.
Donc je vous propose qu'on parte directement avec la séquence. Il est né le 11 mars 1975 à Bordeaux.
Oh le fossile.
Il est humoriste, comédien, chroniqueur, révélé au grand public dans l'émission On ne demande qu'à en rire.
Après on ne connaît pas, on était trop jeunes.
Ouais, moi je connais pas l'émission personnellement, mais bon, c'est le sosie officiel de Julien Alaphilippe, dites-vous.
C'est assez méprisant, ils ont le même book mais c'est incroyable.
Vous verrez les photos en casque. En 2025, sa tournée en trio avec Jérémy Ferrari et Baptiste Le Caplain compte plus de 500 000 entrées. Vrai sportif depuis 2024, il a enchaîné 3 marathons en 1 an et demi. Il a notamment bloqué le marathon de Valence en 3h et 11 minutes, vraie performance.
Accro au sucre, du coup c'est pour ça qu'il prenait beaucoup de gel sur le marathon.
Ouais, il essaye d'arrêter depuis la semaine dernière le sucre, mais c'est compliqué. Sa plus grande performance sportive, c'est sûrement d'enchaîner 3 spectacles en 18 mois. Et ça, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est dur.
Et en plus, actuellement, il est encore en tournée en spectacle pour avec son spectacle Tous contre 1.
C'est un jeu de mots.
Ouais,
tous très mauvais.
Ouais, c'est pas.
Je vous demande un tonnerre d'applaudissement pour Arnaud Tsamer.
Meilleure presse du monde.
Ah, on a essayé de faire un truc un peu original, un peu.
Bah ouais, mais il y a du boulot surtout, bravo.
Ouais, on essaye, c'est une grande première pour nous. Toi,
m'avais rappelé. Je suis trop content de vous voir, les gars. Je suis très content de voir Constance, mais je suis très content de vous voir.
Et nous aussi, mais viens, je vais faire un.
Bah ouais,
vas-y.
Ça fait plaisir.
Ah non, mais votre contenu me régale, les gars.
Merci beaucoup. Ce que tu fais, c'est pas mal aussi, ouais.
Ah, écoute, on essaye.
Non, non, tu me régales.
J'ai bien aimé la petite allusion au sucre parce que c'est un vrai dos hein, chez moi.
Ah ouais?
Ouais, j'ai une vraie addiction au sucre, c'est vraiment pénible.
Tu t'es mis à courir à cause du sucre pour prendre des gels?
Non, mais.
Les gels, c'est pas très bon quand même.
Ouais, c'est du sucre. Quand t'es accro, t'es accro. T'as démissionné pour lancer ta carrière artistique l'année de notre naissance.
Wow. En 2001.
Wow. Non, mais.
Est-ce qu'on était obligé vraiment de donner cette info?
En fait, non, mais c'est trouvé mystère. Drôle et en la disant, je me suis rendu compte.
C'est quoi? C'est 2001, c'est ça?
2001.
Putain, vous êtes si jeune.
Et d'ailleurs, autre anecdote, mon frère est fan de Tour Trail et avec notre grand frère, on a un grand frère, on mettait tout le temps tes spectacles d'impro.
C'est vrai?
Tout le temps.
Alors coup, ça me fait plaisir parce que d'habitude, c'est mes parents et même ça commence mes grands-parents étaient fans de. Voilà. Mais là, si c'est que ton frère, ça va.
Mais notre grand frère, il nous a dit de te passer le bonjour, donc Louis passe le bonjour.
Et je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des jeunes adultes qui viennent, qui me disent ah, ça m'émeut de vous voir parce que quand j'étais au collège, je vous regardais en rentrant du collège. Et je trouve ça chouette d'être ça pour quelqu'un, d'être une Madeleine de Proust.
T'as un moment de vie en fait, c'est bien.
Ouais, je suis un moment de vie, mais ça veut aussi dire aussi que je suis vieux, quoi. Mais
bon, après, vieux, c'est un état d'esprit.
Brel,
il disait ça. 50 ans, c'est la province.
Qui ça?
Brel.
C'est vrai?
Ouais.
Ah,
et alors, t'es en province?
Ouais, c'est ça.
Lâchez des pouces bleus.
Mettez des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne Twitch.
Abonnez-vous à la chaîne d'Armo. Arnaud, d'ailleurs, t'es en spectacle.
Oui.
En ce moment. Tous contre un.
Tous contre un, ouais.
C'est un jeu de mots, du coup.
C'est un très bon jeu de mots, ouais. Non, c'est un très bon jeu de mots. Oui, il faut que j'explique le titre.
Bah, explique-nous.
Ouais, je l'ai appelé Tous contre un du verbe contraindre. Ah. On est tous contraints.
Ça, on l'avait pas, tu vois.
Ah, c'est vrai ?
Non, non.
Voilà.
Et les gens viennent te voir avec cette blague ?
Ouais, 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 ils viennent. Ouais, ouais, ils viennent. Non, non, mais parce que, en fait, je me suis retrouvé après la tournée du trio à devoir écrire un nouveau One Man, alors même que j'avais plutôt envie de prendre 4-5 années sabbatiques. Mon producteur, Jérémy Ferrari, lui, il avait d'autres projets pour moi, qui étaient de faire rentrer de l'argent dans sa prod. Il m'a dit, vas-y, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, il faut que tu remontes sur scène. Et ce truc-là de me dire, ah, j'aurais bien attendu hein, tu vois, une petite année, une histoire de me remettre un peu droit, et qui m'a clairement fait comprendre que non, non, on y va. Et je me suis dit, ben tiens, c'est un bon thème de spectacle, ça, d'expliquer aux gens que je suis contraint d'être là, que je suis obligé d'être là à cause d'un contrat de mon producteur. Et j'en ai fait un truc gaulerie, et voilà.
Au-delà du coup de tes spectacles, toi, t'es fan de sport et de fan de sport auto à la base?
Moi, je suis fan de tous les sports. Genre, non, blague à part. Je suis fan de sport depuis que j'ai 6-7 ans, mais c'est même pas être fan de sport. C'est un équilibre de vie chez moi. C'est un truc qui me...
Comme le sucre.
Ouais, c'est ça. C'est un truc qui modère ma vie depuis que j'ai 6-7 ans. C'est au-delà de la passion. Donc, ça a été le foot. J'ai joué en club pendant 18 ans. Le vélo, je suis tombé dedans à l'âge de, pareil, 7-8 ans. Je suis un fan.
Non, mais excusez-moi, est-ce que c'est pas Julien Alaphilippe Prime dans le Poggio, ça?
Wow, mais non, d'accord, mais... ou pas?
Il est beau, ce vélo. Excusez-moi.
Ah oui, ça, c'est la story que j'avais postée. Ouais.
Ouais, c'est fou.
Il y a une petite ressemblance avec Julien. Ouais.
Non, tu nous l'avais envoyé. Et c'est vrai que, à la premier coup d'œil, je ne sais même pas qui est Julien qui est temps.
Alors, Alaphilippe et de sa mère, ils sont où?
Ouais, c'est quoi? C'est les jumeaux?
On ne sait pas, tu vois. Ah, ben voilà, tu vois, on ne sait pas dire. On
le reçoit sur Twitch avec. On le reçoit sur Twitch avec. En plus, tu fais une émission avec Julien, tu ramènes des gens qui kiffent le sport.
Allez, vas-y. Ben oui, bien sûr.
Tu as eu l'occasion de le rencontrer?
Vous avez eu... Non, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Il y a plein de champions que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, que j'aurais rêvé de rencontrer. Moi, j'ai grandi en étant fou, furieux, fan de Platini. Vous connaissez Michel Platini?
Oui, oui. Alors, là, c'est mon père, il nous a rabâché Platini. Il nous montrait ses best-of sur YouTube.
Moi, c'est mon idole. Mais mon autre idole, c'est Laurent Fignon, qui a gagné ses deux premiers Tours de France à l'âge où moi, j'ai découvert le vélo à la télé. Donc, c'était en 83-84, donc j'avais 8 et 9 ans. Et je suis tombé fou amoureux de ce gars-là. Et mon grand regret, c'est d'avoir rencontré ni l'un ni l'autre. Et... Je me suis consolé avec le troisième qui est Alain Prost, que lui j'ai pu rencontrer bien comme il faut.
C'est-à-dire bien comme il faut.
Non, c'est-à-dire que des aléas familiaux ont fait que je me suis retrouvé proche de lui.
C'est un bon gars.
C'est un très bon gars, très drôle, très drôle. Mais malheureusement, Platini et Fignon, voilà, j'ai jamais pu la rencontrer. Et Alaphilippe non plus.
Ah, okay.
Mais voilà.
Alaphilippe.
Tu connais
possible.
Oui, encore.
Toi, tu suis un peu le vélo ou pas du tout?
Un petit peu.
Et être jeune, ça veut dire avoir toujours ses lunettes de sport dans les cheveux comme
non,
ça?
Non, mais c'est pour la odeur. Bah, si tu veux, c'est cadeau. C'est les miennes, je les donne. C'est cadeau.
Tu sais que tu peux pas me faire beaucoup plus plaisir.
Comment? Pourquoi?
Mais je suis un fou furieux de lunettes de sport.
C'est cadeau.
C'est pour ça. C'est vrai.
Ah non, ce qui est incroyable, c'est que tu peux les porter sur un marathon et en soirée techno. Attends, mets-les. T'as 35 ans là?
Yes.
Mais je les porte bien ou bien?
Non, en vrai, ça te va bien.
Ou bien.
Non, mais ça se voit, t'es affûté, t'as les lunettes.
Suisse, quoi, tu vois. Après, attention, hein, moi je suis maqué avec écoeil. Hein. Alors là, j'ai pas mes lunettes, donc je peux pas.
C'est du Julbo, laisse
tomber. On est sur du Julbo.
Ouais.
Mais t'es rincé par Julbo, toi?
On en parlera après l'émission.
Très bien. Bon, écoute, c'est pas du écoeil, mais ça marche quand même. En tout cas, j'accepte le cadeau avec grand plaisir. C'est un vrai cadeau. Hein.
C'est un vrai cadeau. C'est ma paire. Ah, lunettes de l'étape du tour. L'étape du tour, ça pourrait être un défi que tu te lances après les marathons ou pas, à vélo?
Mais les gars, je suis en train de préparer l'étape du tour.
Mais c'est incroyable.
Vous la faites?
Non.
Ah bon?
Non, mais non, il y a d'autres. Chaque année,
déception dans le camp bosniaque.
Toi, Constance, c'est un truc que t'aimerais faire?
Bah pourquoi pas, un jour. Hein.
Mais faites-le ensemble.
Mais pas tout de suite, parce que là, j'ai déjà trop de projets. L'année, elle est full.
Là, ah oui, d'accord.
Ouais.
Ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est que j'étais au Palais des Congrès pour la présentation du tour. Et Prud'homme, il énumère les étapes. Et il parle de l'étape de l'Alpe d'Huez avec 5003 de D+.
Avec le double passage.
Avec le double passage. Et je donne un coup de coude à mon voisin. Je dis, quand même, j'espère que ce ne sera pas l'étape du tour. Parce que celle-là, elle pique un peu. Et Prud'homme qui fait... J'ai juste eu le temps de dire ça. Et Prud'homme qui fait, cette étape qui sera l'occasion d'accueillir...
Et cette étape qui sera aussi l'étape du tour où chaque année, les plus grands amateurs de France... C'est lui.
Ouais, c'est lui, bien sûr. Mais... Christian Prud'homme, vous le connaissez?
Oui, moi, je le connais. Quelqu'un d'extraordinaire.
Grand monsieur.
Ouais, il est incroyable.
Oh là 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 là, grand
monsieur. Ma petite photo avec lui.
Oh là là.
Bah, j'étais invité plusieurs fois dans les voitures officielles.
Ah, voilà, grand monsieur. Il est incroyable, ce gars.
Il est charismatique. tellement en fait c'est un passionné qui te transmet le virus en 3-4 mots.
Et c'est ça. Et il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit je vous adresse un message de la part de Christian Prudhomme qui vous remercie pour votre article, etc. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et maintenant, on s'entend très, très bien. On s'envoie des messages. Il vient dîner à la maison pour Noël. Ah, on se fait des cadeaux. Non, je déconne.
Mais
on s'entend très bien.
Il est acteur, c'est ça. En fait.
Et je trouve ça super que, par exemple, tu vois, sur quand il y a la présentation du tour, il accueille quand même. C'est quand même un gars qui a des responsabilités dans le milieu du vélo. Et donc, il accueille des politiques ce jour. Là, c'est très important pour lui, la presse du Tour. Eh ben, il va serrer la main à tout le monde et tu vois, il vient me serrer la main, il prend le temps d'échanger 15 secondes et j'ai envie de lui dire, mais Christian, va t'occuper du maire de je sais pas quoi ou de monsieur le ministre de je sais pas quoi. Non, lui, il s'en fout. Les passionnés ont le même grade chez lui. Quoi.
Et c'est ça qui est magnifique.
Mais oui.
Si t'aimes le Tour de France. Et,
mais oui, c'est ça qui est bien.
Des fois, dans le sport, moi, j'ai remarqué, des fois, mais c'est malgré eux, les athlètes sont parfois mis sur des piédestals par les équipes, par les RP, donc ceux qui cherchent les relations presse autour.
Alors qu'en fait,
C'est que des gens passionnés comme
nous. Mais bien sûr.
Tous.
Mais bien sûr.
Ils ont envie de parler de sport.
Et plus ils ont de palmarès, plus ils sont accessibles, humbles et gentils.
J'ai l'impression que ça les laisse détendre d'avoir tout gagné.
Parce que
c'est vrai, non, mais certainement.
C'est qui ton cycliste préféré?
Actuellement, moi.
Un petit peu le Texas là qui démarre et qui envoie fort, c'est inspirant. Ouais, c'est trop jeune, trop frais encore.
Non, tu vois, j'ai pas envie, par exemple, c'est que ça, j'espère qu'il sera pas grillé trop tôt, quoi.
Ouais, on espère aussi.
C'est comme un petit chat mignon que t'as pas envie d'effrayer pour pas qu'il parte de ta terrasse.
C'est trop tard. Après, un petit chat mignon qui suit Pogacar dans l'Estrade Bianchi, tu vois, c'est le dernier gars.
Mais il est fou, ce gars.
Il est Michelin, quoi.
Ouais, c'est extraordinaire.
Tu sais que nous, on était beaucoup cyclistes amateurs. Maintenant, on fait plus trop de courses, mais on l'a été pendant longtemps dans la région. Il vient de la région lyonnaise. Depuis que, enfin, genre, il a 14, 15, 16 ans, on entend parler de lui, genre, en mode, oh, il y a des bruits de couloir comme ça, oh, il y a un petit gars qui arrive là.
Il y a un cadet qui est allé Watt des juniors.
C'est vrai, c'est vraiment un extraterrestre, le gars, donc.
Ah ouais, je pense qu'il
a trois bras. Hein.
Pour avoir côtoyé l'équipe de coup de Décathlon CMA CGM la dernière année, quand l'arrivée de Paul Sexa, c'était vraiment genre, quand les directeurs de la performance et tout parlaient de lui, c'était. Attention les gars, là on est vraiment sur quelque chose d'autre.
J'espère qu'on va pas le griller trop tôt, mais en tout cas c'est très réjouissant de te dire qu'il y a un gars comme ça qui arrive dans le vélo français. Et en plus il y a pas que lui, tu vois, il y a
Romain Grégoire, Paul Magnier.
Ouais, non, mais voilà.
On les oublie.
Qu'est-ce qui gagne devant Vingegaard là
désolé la constance sur ta tunnel sur le vélo là. On est parti.
Là
l'allure elle est bien en vrai. T'as l'air d'avoir une danseuse où t'es bien sur l'avant justement sur l'avant du vélo.
C'était où ça?
Après faudrait voir en vidéo parce que par exemple une photo ça va, moi quand je me mets en danseuse je sais que tu vois je suis pas le mec qui a une danseuse
mais je l'ai la vidéo de ça, et vous savez qui prend la photo?
Julien Lafilippe?
Non, Alain Prost.
Mais non.
Mais oui.
Mais non, mais bien sûr.
Mais si. Si. C'était à la montagne. C'était un hiver et on était partis en vacances.
On n'a pas les mêmes relations.
On avait emmené les vélos et on se filmait et on se prenait en photo. On est vraiment des.
T'es un influenceur du coup.
Ouais. On est vraiment des cabots, mais voilà.
Pour en revenir à ton.
Oui, dis-moi.
À ton enchaînement de spectacles, excuse-moi, je te coupe, mais de base, vous êtes tous les deux mis des grosses challenges sportifs après la perte d'un être proche et notamment tous les deux votre père en fait.
Ouais.
Et vous avez tous les deux, toi tu t'es lancé dans les marathons comme un exutoire.
Ouais, il y a un petit peu de ça, oui. En tout cas, la perte d'un être proche te fait réaliser que tout à coup le temps passe plus vite que prévu et que il y a peut-être des choses à réaliser maintenant et de pas attendre 10 ans avant de les faire, quoi. Donc c'est vrai que quand j'ai perdu mon père, ça a déclenché évidemment pas mal de choses en moi, comme ça déclenche pas mal de choses chez tout le monde qui perd un parent, mais en tout cas cette prise de conscience des années qui passent et de la beauté de la vie et du fait qu'il faut vraiment saisir tout ce qui se passe, et donc en quelques très très vite j'ai fait le rêve théâtral dont je parlais avec lui même quelques jours avant qu'il parte, qui était de jouer Cyrano de Bergerac. Je l'ai fait. Alors que ça faisait 20 ans que j'attendais, entre guillemets, ou j'en rêvais, mais à un moment donné, il y a un élément qui fait que tu fais les choses, en fait.
Et sans avoir peur d'échouer, quoi.
C'est ça. Et puis tu le fais parce que c'est le moment de le faire, tu dois le faire, etc.
Et t'avais quel âge quand t'as perdu ton père?
J'avais 43, 44.
Ok.
Et voilà, et puis peut-être effectivement que d'aimer autant courir des marathons et me challenger autant dans la course à pied, c'est aussi un moyen de me sentir encore C'est un peu la, ouais, la phrase, elle est un peu bateau, ouais,
mais c'est,
un, c'est un peu ça, de me sentir vivant, d'être en bonne santé, de
devoir progresser aussi.
Ouais, oui, 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 bah ouais. Et voilà, il y a un peu de tout ça quand même dedans. Ouais.
Toi aussi, quand tu fais tes sommets, maintenant quand tu trails et tout, il y a aussi ce truc de dire waouh, je peux le faire, je le fais, j'en profite.
Ouais, c'est clair. Bah moi, à partir du moment où j'ai perdu mon père dès mes 9 ans, j'ai réalisé à quel point la vie était courte et que il y a beaucoup de choses où faut que ça passe au-dessus. Et si t'as envie de te lancer dans des projets, il faut y aller maintenant. Hein. Mais et c'est pas grave de pas être tout parfait. Enfin, je veux dire, c'est pas grave que tout ne soit pas ultra préparé et tout, mais il faut se lancer, quoi.
En fait, sur le film, il y a un parallèle. Peut-être, c'était pas la même période, pas le même moment, mais oui, toi, dès que tu te mets au sport aussi, tu t'es mis au ski parce qu'il voulait que tu fasses du ski, non?
Ouais, j'ai commencé les compètes 2 mois après son décès.
Ah ouais. Et du coup, il y a peut-être ce côté-là aussi de. D'inspirer.
Ah bah moi c'est clairement, enfin c'est vraiment le décès de mon père qui a fait que j'ai voulu commencer la compétition de ski et où je me suis dit bah en fait si faut y aller quoi. Et même là de manière générale dans ma vie il y a beaucoup de choses où je pense que je me serais pas lancée si j'avais pas perdu un proche et que j'avais pas réalisé à quel point la vie était courte, tu vois, et que ouais faut se lancer. Puis en fait en soi au final qu'est-ce que tu risques? C'est quoi le risque?
De réussir.
Ouais.
C'est le seul risque.
Mais c'est vraiment ça. Enfin, franchement.
Bah oui, bien sûr.
Marathon moins de 3 heures, c'est un défi réellement?
Ouais, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi que j'ai dans un coin de ma tête. J'ai fait 3 marathons dans ma vie. Ouais. J'ai fait 29, 18, enfin 3h29, 3h18, 3h11. Je me dis j'ai jamais fait une prépa sans un pépin physique. Avec le coach, on a ciblé. Tu vois, je suis comme ça.
T'es affûté. Hein.
Je manque de muscles. Il faut que je prenne en masse musculaire dans les jambes j'arrive toujours en saturation au 35e. J'arrive toujours en saturation, crampes, etc. Donc l'alimentation ça va, le cœur ça va, la résistance à la douleur. Ça, il y a aucun problème. Mais maintenant, il faut que j'arrive à entraîner mes muscles, à prendre de la masse en muscles. Et je sais que la clé des 3 heures, elle est là, quoi.
La résistance musculaire.
Ouais.
Et ça, c'est un truc que tu fais jeune.
Ah, ouais. Mais oui. Mais là, je sais qu'à mon âge, je peux encore. Alors, ça demande à 50 balais, ça demande une rigueur dans l'alimentation, dans le
sommeil aussi.
J'allais ouvrir la bouche pour dire ça. Le sommeil, l'alimentation.
Mais
l'alimentation et le sommeil.
Ouais, c'est la clé. Hein.
Et donc, ça demande une rigueur folle. Par exemple, tu vois, après, j'arrête de parler, mais marathon de Valence, j'ai eu la bonne idée de prendre un chiot 15 jours avant.
Micheline,
grossière erreur.
Et à ce qui paraît, t'aimais pas les chiens une semaine avant.
Ouais, je sais. Ouais.
C'est ce qu'on nous a dit.
Ouais. Mais vous êtes bien renseigné. Hein.
Attention, disons qu'on a fait un peu de taf, ouais.
Ouais.
Il y a peut-être un renseignement que vous avez pas.
Ah, dis-nous. Que toi, t'as du coup?
Bah oui, parce que ce qui est très rigolo, c'est que Manon.
M'accompagne, ouais.
Je dors chez elle, j'ai les clés de chez elle.
Ouais.
Donc en fait, ce soir, je dors chez elle.
En fait, ce soir, elle dort chez ma meuf. Voilà.
Ça va, pas jaloux?
Non, ça va.
Et du
coup, mais parce que.
La dernière fois, j'ai gardé, parce que Manon a aussi un chien, un autre chien, Dario, que j'ai gardé la dernière fois.
Donc demain, toi, tu vas aller à l'avant-première, logiquement?
Ah bah demain, je suis au Grand Rex.
Oui, voilà.
Est-ce que t'as des conseils à donner, tu vois, avant d'appréhender une aussi grande salle, tu vois?
T'as déjà fait une aussi grande salle?
Avec le trio, on a fait des grands.
Ah, les Zéniths, tous les Zéniths.
Avec le trio, on a fait des Zéniths, mais on a surtout enregistré les duos Impossible 10 au Grand Rex. Donc j'ai joué au Grand Rex là-bas. Non, le conseil, c'est évidemment de pas imaginer imaginer les 2500 comme une entité unique, mais juste de te dire que chaque personne qui est là, elle est seule à te regarder. En fait, vous êtes donc tu parles juste à une personne, en fait. C'est un petit truc à se mettre dans la tête, mais.
Et surtout, les gens, ils viennent pour te voir, ils veulent te voir.
Non, mais de toute façon, tu ne peux pas avoir peur de gens, aussi nombreux soient-ils, qui viennent faire une démarche d'amour pour toi.
C'est vrai.
Le fait de venir, c'est une démarche d'amour. C'est des gens qui viennent t'aimer. Donc,
mais je crois que c'est plus la nostalgie que ce soit la dernière, tu vois.
Ah, peut-être, oui, ça c'est autre chose.
Du coup, moi, j'avais juste le truc, du coup, t'as enchaîné 3 marathons en un an et demi, là, t'enchaînes 3 tournées en 18 mois.
Oui, putain.
Mais, j'ai tellement de questions. Quand est-ce que tu trouves le temps de t'entraîner déjà?
Ouais.
C'est du sport quasiment tous les jours, en fait, en vrai. Que ce soit un peu de renfo ou jusqu'à la sortie de F à vélo de 2h30, 3h. Non, c'est du sport tous les jours. C'est du sport tous les jours. Et en ce moment, et je te dis, Micheline, là, elle a un peu baisé le truc. Parce que
ça prend du temps, un chien, on dirait pas.
Là. Et puis là, en plus, elle peut pas rester seule. Donc, elle assomme la tête des voisins dès qu'on la laisse seule.
Ah ouais.
Donc, tu vois, la sortie de vélo de 3 heures quand il fait beau, ben, je peux pas. Donc, je monte sur le Zwift. Là, je suis.
Alors qu'il a fait tellement beau, là, en mars.
Je sais. Et quand t'es sur le Zwift et que tu vois les rayons de soleil qui tapent sur ta vitre, t'es un peu dégoûté. Mais t'as la chienne qui te regarde comme ça et qui te dit si tu sors,
voisins vous portez plainte.
Ouais, tes voisins porteront plainte. Reste bien sur ton Zwift.
Elle a un sacré caractère, cette Micheline. Hein.
Ah ben, c'est un teckel. Hein.
tu dis ça comme si c'était.
Et donc, j'ai pris Micheline 15 jours.
J'ai vu la dernière fois, je l'ai vue.
Bah oui.
Elle est comment ? Elle a vraiment ça le caractère ?
Non, mais c'était Dario qui devait manger ses croquettes et elle n'arrêtait pas de squatter dedans.
Ah, je te jure, elle a un caractère de ouf, quoi.
Et elle court pas ?
Eh ben, je vais la mettre à la course à pied.
Moins de 3 heures. Bah, elle va la calmer, tu vas voir.
Ouais. Non, mais l'éducateur, il m'a dit, si, cette race-là, ça peut courir. J'ai dit, mais quoi, 500 mètres? Il me dit, non, tu fais 7 ou 8 kilomètres. Ouais. Après, à 6 minutes, hein, 6 minutes du kilo, mais...
Va pas lui faire une crise cardiaque. Oh, mais regardez comme elle est mignonne.
Mais regardez ça. Ouais, mais une crise cardiaque, tu rigoles. Elle a un cardio, elle a une énergie, mais laisse tomber. Elle est infatigable.
On va essayer de deviner un métier caché du sport. C'est-à-dire que maintenant, alors ça va être en visio, parce qu'on vu que c'est la première, tout le monde n'a pas pu se déplacer. Les lunettes, ouais. On met tous les lunettes. Okay. Du coup, il y a quelqu'un qui va venir, qui va apparaître derrière l'écran. On va tous lui poser des questions par équipe de deux.
Bonsoir.
Salut Pierre. Comment ça va?
Impeccable.
Pierre, est-ce que votre métier est en rapport avec la santé?
Non.
Ok.
Mais j'ai senti le peut-être était pas loin.
Il a un peu hésité quand même.
Ok. Ouais. Est-ce que c'est lié au sport?
Pas que?
Pas uniquement, tout à fait.
Pas si inintéressante ta question.
Pierre, es-tu nutritionniste? Moi, j'ai Pauline. Non. Allez, j'ai perdu une question. Est-ce que tu travailles dans une équipe professionnelle?
J'ai travaillé avec plusieurs équipes professionnelles.
Okay. Est-ce que ton travail a un rapport avec le matériel sportif?
Ouais, je crois que c'est ça.
Pas du tout.
Vas-y, je fais all-in. Est-ce que tu es coach mental?
Tout à fait.
Wow, yeah. Allez.
C'est pour ça. Ah oui, mais c'est... Oui, ok, je comprends mieux le pourquoi...
Il y a des formations à suivre si on veut devenir coach mental, accompagner des athlètes?
Oui, bien sûr, il y a des formations. Alors, il y a plein de façons différentes, hein, parce qu'il y a beaucoup de techniques d'accompagnement, donc... il y a des formations de coaching qui s'appellent du coaching. Moi, je propose aussi des formations de coaching mental. Il peut y avoir des formations de préparateur mental. Il peut y avoir des formations d'hypnose, de relaxation. Il y a plein de techniques différentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est un peu flou pour le grand public parce que j'ai tendance à dire qu'il y a quasiment autant de façons de coacher mentalement un athlète qu'il y a de coachs mentaux. Donc, ça dépend de l'expérience, ça dépend du parcours, ça dépend des formations, ça dépend de beaucoup de choses.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Pierre, d'être passé dans l'émission. Bon retour. On a montré ton livre et ton site internet aussi. On rappelle à tout le monde dans le chat. On va le mettre. coachingmental.fr.
Merci beaucoup, Pierre.
À bientôt. Ciao. Et on va lancer le dernier défi de la soirée.
Ouais.
On a quelqu'un qui a un petit message pour toi qui t'a fait une petite vidéo et qui te lance un défi, Arnaud.
Ouais. C'est vrai?
Ouais, je te jure. Mais crie pas victoire trop vite.
Salut les gars, c'est Johan Durand de RMC Running. Tout d'abord, je voulais vous féliciter les frères pour le lancement de Basecamp. Ça va être une tuerie. Et je sais qu'aujourd'hui, vous recevez un athlète que j'ai eu le plaisir et l'honneur de coacher pour sa prépa du marathon de Paris. C'est Arnaud de sa mère. Il a fait 3h11 au marathon, donc c'est un excellent coureur. Je sais qu'il court bien, donc je voulais lui lancer un défi de courir sur un tapis à 16 km/h. Bon, ça, je sais qu'il en est capable, c'est assez facile pour lui. Donc du coup, je veux que vous ajoutiez un gilet lesté de 10 kilos. Voilà, ça va lui faire les pieds et on va voir jusqu'où il est capable d'aller. Allez, bon courage mon Arnaud et bonne émission à tous. Ciao.
C'est que de l'amour. Et si le coach dit que c'est possible, ça veut dire que c'est pas contre-indiqué.
C'est vraiment un coup à se blesser.
C'est un coup à se blesser. On y va doucement si tu veux.
Ouais, allez, vas-y.
Mais c'est pas moi qui ai lancé le défi. Hein.
Oh non, mais ça fait vraiment 10 kilos.
Ah, c'est lourd. Hein. Ah, c'est...
Putain, vous abusez, les gars. Vous
abusez. Arnaud, tu nous as dit que t'étais un athlète, que tu préparais tes spectacles en faisant du sport, que tu préparais des marathons. Maintenant, faut assumer.
Laisse-moi tranquille.
Là, tu vois, on est à 12.
Allez, je passe
4,
à
16.
Là, je passe.
Oula, 14.
Ah, 14. Oui,
14 km/h, vu qu'on est à 4 minutes 16 au kilomètre. Là, c'est déjà dur.
Non, ça va. Allez, je passe à 16.
3,45.
Oh, ça va.
3,45 par kilomètre. On a des difficultés en plus, Antoine. C'est lourd.
Pas mal.
Ah oui, c'est lourd.
Ah oui, c'est lourd.
Mais vous êtes lourd. Non, Johan, mais... je te déteste.
Comme ça, si tu veux, si jamais tu cours et que tu dois ramener Micheline, on t'entraîne.
Faites-moi penser à pas grossir.
Non, mais là t'es fit, hein, t'es bien.
Non, mais là, on est bien.
Là, tu vas être...
Et c'est pas mes chaussures. Hein.
Ah oui, faut mettre...
Ça se voit que tu prends du plaisir, Arnaud.
C'est pas mes bonnes chaussures.
Ça tient, là, ça fait déjà 30 secondes, là, que t'y es.
Mais non, ça fait une minute, là.
Ça fait une minute que tu y es, je te l'accorde.
Oh, ça va, je l'ai, l'allure.
Tu l'as, là.
On a montré à tout le monde. On peut s'arrêter ou pas?
Ouais, on peut. Bravo, Arnaud, merci.
Ouais. Ah. Monstre.
Allez, bravo. Non. Je tiens quand même à dire aux gens qui nous regardent que 3 minutes 45 au kilomètre, c'est une bonne allure.
Merci beaucoup d'être venu dans Basecamp. Vous avez été les premiers invités de l'émission. Constant, je vois que t'es un peu cramé. Nous aussi, on n'avait pas compris que ça allait être aussi crevant, mais trop content d'avoir pu enfin lancer ça. Trop content que vous soyez venus. Merci beaucoup, du coup. On se retrouve, nous, en avril sur une émission sûrement à préparer Roubaix après le marathon de Paris. Il y aura des invités de fou, c'est sûr. Qui? On ne sait pas encore. Sûrement Mbappé qui viendra parler de Paris Roubaix. Et aussi peut-être Timothée Chalamet qui nous parlera de ping-pong. En tout cas,
le gars a déjà une expérience.
On se retrouve en avril. Ciao, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Arnaud, merci Constance.
Ciao, merci, c'est incroyable. Merci à tous.